Monsieur Gavry pour Madame Campagne.
Exactement.
Monsieur Cassar à Madame Moulin-Trafford. Monsieur Hélène à Monsieur Albert. Et Monsieur Capelletti à moi-même. Voilà, nous n'avons pas reçu de remarques écrites sur l'adoption du dernier procès-verbal. Y en a-t-il un séance ?
Si, si, il y a eu des remarques.
Il y a eu des remarques ? Sur les modifications de vote, c'était prière contre M. Mouni.
Je ne suis pas sûr, parce que moi j'ai aussi. Voilà, parce que.
On se lance sur les sujets. On voilà. Vous donne.
On va regarder ce qu'on
a. On vous le donne. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce qui est. On a pas l'habitude de s'investir, la vérité. Bien. Une information, on va ouvrir ce conseil. Une information relative au climat et à ce qu'induit ce climat. Donc, vous le savez, nous avons une annonce d'une canicule qui va affecter une partie de l'Hexagone. Nous ne serons pas exemptés, vraisemblablement. Et dans un souci de prévention, donc, d'ici demain au plus tard, les affiches et les flyers seront disposés dans les accueils municipaux, c'est-à-dire ici, à mairie de Carnot, à mairie de Mouguion, au CCAS. Nous avons acheté un stock conséquent de bouteilles d'eau pour subvenir à des besoins complémentaires. Nous avons recensé auprès de l'agglomération les personnes de plus de 60 ans bénéficiant d'une aide à domicile sur le territoire. Donc, de sorte que nous pouvons repérer et anticiper les personnes qui se trouvent en état de fragilité. Et nous avons mis à jour le tableau des personnes enregistrées comme vulnérables qui sont envoyées également par le biais des tuteurs ou des curateurs. Voilà. Donc, vous le savez, par le passé, l'État était parfois taxé d'imprévision. Nous ne souhaitons pas renouveler ces mauvaises expériences, et donc aujourd'hui, la commune, bien entendu, en lien avec les services de la protectorat, et surtout en lien avec la population et avec les attentes qui sont les vôtres, anticipons ce besoin d'attention et d'accompagnement par rapport à la canicule. Ça, c'était la première information. La deuxième information, elle est surtout destinée aux personnes qui habitent à Carnot, à vous, mesdames et messieurs. Et à ceux qui viennent dans l'obésité, puisque la mise en service du bac prévue pour le 1er juillet se fera en fait ce samedi, dès ce samedi, 29 juin, aux heures habituelles et selon les rotations habituelles. Voilà. Donc je tenais à apporter cette précision. Donc je sais qu'elle est attendue par bon nombre de cadronnés et des services. Sont mis à devoir, et ils y ont réussi, nous y verrons aussi, à avoir tout prêt, c'est-à-dire le matériel, également les conducteurs. Nous allons commencer ce conseil avec l'examen des décisions municipales que vous avez en page 6, 7 et 8, qui sont des conventions mises à disposition, qui sont également des contrats de spectacle et d'intervention culturelle, ce qui est classique comme. Voilà. Il n'y a pas eu de commission d'appel d'offres importante ces derniers temps. On a les procédures adaptées supérieures à 90 000 euros avec le matériel d'arrosage, le matériel de plomberie, des réflexions de voirie. Et ensuite, quelques aveneurs. On en a un qui est négatif. Je regrette qu'ils ne soient pas sur le numéro 60. En fait, ça arrive, vous voyez. Sur le château des comptes de Bellegueil, le malin de moins 10%, 74 sur les menus de Rivois. En revanche, un surplus, une désalliantage au niveau primaire. Et ensuite, sur l'électricité. Voilà. Donc je propose, sans plus tarder, à Madame Favier, ma voisine, de vous exposer le compte de gestion 2018, puisque c'est le mois de juin et qu'il convient d'approuver notre compte de gestion, enfin, convient de l'approuver, convient de le présenter.
Merci, bonsoir. Alors, le compte de gestion est le compte qui est le document comptable qui retrace l'ensemble des écritures qui ont été passées par le receveur de la collectivité, c'est-à-dire la trésorerie publique, tout au long de l'année civile. C'est le double du compte administratif. Le compte administratif, je vais vous le présenter dans un deuxième temps, mais on commence par le compte de gestion parce que le trésorier doit d'abord valider tout ce qui a été fait comme opération sur l'année 2018, puisque c'est l'année qui nous concerne cette année. Donc les écritures comptables retracées dans le compte de gestion tenu par le receveur sont conformes aux écritures comptables passées dans le compte administratif tenu par l'ordonnateur, c'est-à-dire la commune. Donc on vous demande donc de bien vouloir approuver les comptes, le compte de gestion. Et après, vous avez tout le détail, bien sûr, en deuxième point, sur le compte administratif.
Bien. Y a-t-il des questions à l'exposé de madame sur celui-ci, non, je suppose. Donc, je vous demande d'approuver le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par monsieur le receveur, visé certifié conforme par l'ordonnateur, qui n'appelle aucune réserve d'autre part. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors, le point numéro 2 est maintenant le compte administratif pour l'année 2018. Donc, le compte administratif, c'est le bilan. C'est le bilan des dépenses et des recettes qui ont été effectuées par la collectivité sur la totalité de l'exercice, c'est-à-dire sur 2018. Il permet d'apprécier la réalisation et la gestion effective du budget que nous avons voté auparavant. Il retrace les comptes tenus par le comptable après, bien sûr, et la situation patrimoniale de la commune. Nous savons que ces comptes sont appliqués dans un contexte contraint pour les collectivités. Nous avons fait le choix, et c'est un choix politique, de ne pas recourir au levier fiscal, c'est-à-dire de ne pas financer tous les investissements qu'on va vous présenter par une augmentation des impôts. Donc nous concentrons nos efforts, puisqu'il y a quand même beaucoup de contraintes que nous met maintenant l'État, sur une gestion, c'est-à-dire un pilotage de la masse salariale, une optimisation des dépenses, une équité fiscale et une gestion active de la dette. Quelles sont les contraintes pour le secteur public? C'est bien sûr la baisse des dotations de l'État, vous en avez tous entendu parler. Elle est cette année, pour 2018, pour Mogio-Carmion, elle était de 710 000 euros, ce qui représente une baisse de plus d'1,5 million pour la commune depuis 2014. Chaque année, le coefficient de revalorisation des bases fiscales est indexé à l'inflation par rapport à l'année d'avant. Pour 2018, il était fixé à 1,2%. Pour 2019, ce sera un peu plus dynamique puisqu'il a été fixé à 2,2%. Ça, ce sont des contraintes qui nous sont imposées. La réforme de la taxe d'habitation, même chose, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est-à-dire que pour l'instant, elle n'impacte pas notre budget puisque l'État compense. Une autre contrainte qui est la limitation de l'évolution des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que l'État a fait le choix, à partir de 2018, de ne plus baisser les dotations qu'il verse à chaque collectivité. Par contre, en nous demandant de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que nos dépenses de fonctionnement ne doivent pas évoluer de plus 1,2%. Alors, quel est le contexte plus précisément pour Bonvieux-Clermont, pour notre commune? Après la baisse de la dotation globale de fonctionnement, je vous le disais tout à l'heure, de 1,5 million au niveau de nos recettes entre 2014 et 2017, 2018 est donc marqué par un pacte financier, à condition, c'est-à-dire que la dotation va rester équivalente, à condition qu'on n'augmente pas nos dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%. Pour la commune de Mogio-Carmion, cet objectif de 1,2% va être difficile à tenir. Parce que nous devons entretenir notre patrimoine, renforcer la proximité en mettant le citoyen au cœur de l'action, et notre projet, notre volonté, de maintenir, favoriser le lien social tout en s'engageant dans le développement durable. Vous avez vu les progrès qui ont été faits à ce sujet. Et ce qui entraîne une augmentation forcément des dépenses de fonctionnement, mais qui cette fois-ci vont devoir être à maîtriser, plus 1,2% maximum. De même, pour répondre aux préconisations du schéma directeur, qui est la requalification de la station de Carnon, il y a des besoins d'investissement, puisque le budget pour ce projet est fixé à 6 millions d'euros. Et la situation financière de notre ville est solide, ça c'est la bonne nouvelle, puisque vu les contraintes, ça nous permet de continuer d'investir. On a une capacité de désendettement qui est inférieure à 3 ans, c'est-à-dire que pour la commune de Morio-Carmont peut rembourser la totalité de ses dettes sur 3 ans. Alors ça, c'est pas arrivé comme ça vu les contraintes. C'est-à-dire que c'est dû à une stratégie, une bonne santé financière de la commune, des investissements structurants qui arrivent à leur terme sur 2018 et 2019. C'est le cas de la réhabilitation du château pour 1,8 million d'euros, la réalisation de la base nautique de Carnon pour 1,839 million d'euros, la réhabilitation d'îlots Prévert et la maison des associations pour 3,5 millions d'euros. Ainsi que le schéma directeur, je vous en parlais, pour 6 millions d'euros pour la station de Carnon. Cette situation financière permet aujourd'hui de garantir une capacité de désendettement, alors non plus de 3 années comme elle est actuellement, mais à la fin de tous ces investissements, nous avons pour objet d'être sur 7 années de désendettement, de capacité de désendettement. Alors, vous avez ici projeté un schéma qui vous montre, qui résume bien comment sont constituées nos dépenses de fonctionnement, nos recettes de fonctionnement. Alors, vous voyez qu'au niveau des dépenses de fonctionnement, bien sûr, comme de nombreuses entreprises, c'est la masse salariale qui pèse le plus au niveau du budget. Ça aussi, c'est un choix politique. C'est ce qui permet d'avoir une proximité auprès du citoyen. Les dépenses de gestion, ben c'est tous les frais d'entretien, etc., pour faire tourner les écoles, pour qui rentrent dedans. Les intérêts financiers, alors eux tiennent peu de place, puisqu'on a très peu de dettes, inférieures à 10 millions, que les intérêts financiers ont été négociés et sont bas, donc nous coûtent de moins en moins cher. Alors c'est une volonté aussi pour pouvoir faire les investissements qui arrivent sur 2019, 2020 et après, et qui vont nous permettre, par cet faible endettement, de pouvoir faire un nouveau prêt sur 2019, d'ailleurs dès 2019, pour pouvoir accomplir tous nos investissements prévus. Au niveau des recettes de fonctionnement, ce sont essentiellement les impôts et les taxes. C'est le produit du domaine, ce qu'on appelle le produit de domaine, c'est tout ce qui est parking, les concessions de cimetière, les redevances, les plages, la régie. Autre produit, c'est tout ce qui est location de salles, des cessions d'immeubles et les dotations d'État. Bien, vous voyez, ça représente une part infime maintenant, c'est-à-dire 2% de nos recettes de fonctionnement. Au niveau des dépenses, et bien sûr, les dépenses, c'est l'équipement, c'est-à-dire c'est l'investissement, essentiellement. Rentre dedans le remboursement du capital. Donc forcément, il est plus faible puisque nous avons peu de dettes actuellement. Au niveau des recettes d'investissement, et bien c'est essentiellement nos ressources propres. Les subventions, un très gros travail est effectué au niveau de nos services pour aller chercher les subventions pour chaque investissement. Et le prêt, ben là, qui pour l'instant n'est pas une grosse part de financement. Alors, je vais vous donner, pour bien sûr le conseil, les membres du conseil, vous avez tous le détail de tous les chiffres. Après, je vais m'arrêter sur les points les plus, sinon vous n'allez plus me supporter si j'ai fait ce soir. les points les plus parlants, les plus stratégiques sur nos finances. Les grandes masses financières. C'est ce qui nous donne aussi, nous permet de donner notre bonne forme financière. Ce sont ces ratios-là. Alors, au niveau des données générales, vous avez les recettes de fonctionnement, je vais pas vous donner quelques chiffres. Pour 2018, 26 422 000 euros. Et les dépenses de fonctionnement, 23 020 106 euros. Les recettes d'investissement, 1 953 000. Et les dépenses d'investissement, 7 095 000. Sur l'endettement, donc je vous le redis, notre capacité désendettement est excellente puisqu'on est inférieur à 3 ans. Et là, vous voyez, vous avez le montant de notre, ce qu'on appelle l'encours de nos crédits qui est sur au niveau de 10 millions. Donc la commune se désendette depuis 2014. C'est le résultat d'une stratégie financière qui nous permet de garantir le financement des réalisations futures. On a des projets d'investissement qui sont lourds, qui sont ambitieux, et pour ça, il faut qu'on montre qu'on a une capacité de désendettement qui est bien située et des ratios d'épargne qui sont excellents. La commune, en 2019, prévoit un emprunt d'un montant de 4 380 000 euros. Les soldes intermédiaires de gestion. Alors, je suis désolée, mais ça fait aussi partie du compte administratif. Je dois vous en parler un petit peu. C'est-à-dire qu'on a trois types d'épargne qui vont définir notre santé financière. Sans aller sur des termes compliqués, l'épargne de gestion, l'épargne brute et l'épargne nette, en fait, c'est tout simplement ce qui nous reste dans nos caisses une fois qu'on a fait nos dépenses et reçu nos recettes. Donc, est-ce qu'on a un graphique sur l'épargne, les soldes intermédiaires de gestion, voilà. Donc, vous voyez, qui va quand même faire attention, va leur faire attention, puisqu'on constate une fragilisation des épargnes. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de grave, mais l'épargne brute et l'épargne de gestion diminuent chaque année sur la période de 22%. On l'a vu précédemment, c'est tout simplement parce qu'on a des dépenses de fonctionnement qui augmentent un petit peu plus vite que nos recettes de fonctionnement. Donc, ce sont des points de vigilance qu'il faut avoir. Pour éviter le fameux effet ciseau dont on parle depuis le début, c'est-à-dire pour éviter, bien sûr, qu'il y ait plus de dépenses que de recettes comme un budget classique de tout un chacun. Donc là, on voit que tant que la ligne verte et la ligne rouge ne se croisent pas, tout va bien. Alors ça, c'est dû à des mesures d'économie qui ont été mises en place depuis 2014. Une optimisation des recettes, la gestion de la dette, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des remboursements anticipés de prêts, des négociations de taux, c'est ce qui nous a permis d'éviter l'effet ciseau. On reste vigilant au regard de l'évolution des dépenses et des recettes, puisque les dépenses de fonctionnement ont évolué de 1,81%, alors que nos recettes de fonctionnement sont à moins 0,14%, on peut dire qu'elles stagnent. On vous a remis un petit slide sur les ratios de désendettement. Bon, je crois qu'on l'a déjà assez dit. Il nous reste à rembourser 10 millions. Donc la dette a baissé de 7,98% par rapport à l'année précédente. Pour vous donner un ordre d'idée, on rembourse 1 358 000 euros de prêts, c'est-à-dire d'annuités par an pour la commune. De la fiscalité directe.
Excusez-moi, La cote d'alerte sur les annuités, là on est à 3 ans, la cote d'alerte elle est à 12 ans, c'est ça?
C'est ça. Entre, à 8, on peut dire qu'à 8 ans, ça commence à devenir une première alerte de vigilance en surveille. Et 12 ans, oui. 12 ans, c'est critique.
Et la strate est à 7 ans?
À 12 ans, alors, à 12 ans, c'est la tutelle, pour finir de répondre à la première question. Et par rapport à la strate, elle est, non, 5 ans.
5 ans.
Ouais, 5 ans sur les communes de même façon.
Et nous, on est à
2,9 aujourd'hui. Mais attention, une fois que tous nos investissements sont réalisés, on se permet d'aller jusqu'à 7 ans. Alors, bien sûr, on le croise aussi avec notre taux d'épargne. Tant qu'en parallèle, le taux d'épargne, c'est-à-dire nos réserves, reste correct, on peut aller jusqu'à 7 ans de capacité de désendettement. Tout à fait. Notre fiscalité directe, qui nous intéresse tous. Alors, depuis 2015, la volonté a été de ne plus augmenter les impôts locaux. Donc, notre taxe d'habitation est à 14,68, la taxe foncière bâtie à 17,6 et la non bâtie à 90,26. Donc, pas d'augmentation depuis 2015. Qu'est-ce que ça représente sur notre budget? La fiscalité directe représente 11 811 868 € en 2018. Ça représente 44,7% de nos recettes de fonctionnement. Donc c'est moitié-moitié pour taxe d'habitation, taxe foncière. Vous êtes à 5,5 millions de taxes d'habitation et 5,8 millions de taxes foncières bâties. J'en profite pour, du coup, vous montrer l'importance des décisions nationales qu'il y aura sur la taxe d'habitation. Si jamais un jour l'État nous dit qu'ils ne peuvent plus compenser la suppression de taxe d'habitation, on perd dans notre budget 5,5 millions. C'est pas neutre. Si, si, j'ai plein de bonnes nouvelles. Au niveau de la section de fonctionnement. Donc la section de fonctionnement, au niveau des dépenses de fonctionnement, le montant est de 23,20 millions pour 2018. C'est une augmentation de 1,81%. C'est ce montant-là que l'État nous demande maintenant de conserver au maximum à 1,20% nos dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez, c'est cette évolution-là qu'il va falloir canaliser à partir de maintenant, dès 2019. Alors, qu'est-ce qu'on a les postes les plus importants au niveau de nos dépenses de fonctionnement? C'est bien sûr le poste des charges de personnel, comme dans de nombreuses entreprises. Ça représente pour la commune 61,4% des dépenses réelles. Alors, il y a des effets qui, bien sûr, ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire des effets qui sont subis par décisions prises au niveau national, comme la revalorisation des catégories A et B, le rythme scolaire, là où il a fallu embaucher de nouvelles personnes, la revalorisation du point d'indice, puis il y a également la volonté de la collectivité, comme quand il y a des départs à la retraite, du recrutement, du remplacement. Alors, ce poste-là, et c'est là-dessus qu'il va falloir que nous soyons vigilants pour maintenir nos dépenses, a évolué entre 2017 et 2018 de 3,2%. Vous les avez, voilà, tout est affiché ici pour avoir le détail. Les évolutions en charge à caractère général, ce sont les dépenses qui... Alors ça représente 23% de notre budget. Ça comprend l'électricité, l'eau, les frais d'entretien des locaux, des bâtiments, les achats de fournitures, les fournitures scolaires. Et l'évolution de ces dépenses est relativement maîtrisée puisqu'elle est de 1,54%. L'évolution du contingent et participation obligatoire, alors ça, je vous en dis juste un mot puisque... c'est une contribution qui nous est demandée de verser au service départemental d'incendie et de secours. Ben, ça aussi, hein, quand on nous demande de le payer, c'est arrivé depuis l'année dernière, et ça représente 122 375 €. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut l'intégrer dans le budget et il faut trouver des solutions pour compenser. Au niveau de l'évolution des subventions versées, ce sont les subventions qui ont été versées. Ça a évolué fortement en 2018, plus 8,5%. Entre 2018 et 2017, le montant des, sub- pension a augmenté de 115 000 euros. Alors là aussi, je fais juste un petit zoom dessus. Il y a une augmentation de 110 000 euros suite à un contentieux sur la maison de retraite Les Pattes de Mobio, où nous avons dû faire une subvention exceptionnelle. Et je vous le disais, alors là, ce qui nous aide beaucoup, c'est la baisse des intérêts de la dette, puisque les taux d'intérêt ont baissé, des prêts ont été, sont arrivés à échéance, tout simplement. Donc ce poste-là nous permet de gagner 36 115 euros. Il y a une autre ligne dont nous n'étions pas forcément à l'origine, mais qui nous fait bien varier nos dépenses de fonctionnement. C'est la fameuse pénalité de loi SRU, c'est-à-dire le nombre de logements sociaux. Donc ça, en 2018, on n'a pas eu à le payer, puisque suite au programme de construction de la front de Mobio. Et nous avons aussi, donc ça c'est ce qu'on appelle la loi SRU, et nous avons eu aussi ce qu'on appelle le fonds de péréquation que nous devons verser au niveau des autres communes, qui s'élève, le FPIC, qui s'élève à 422 000 euros aussi, alors c'est pas un signal montant. Le FPIC, pour que vous compreniez, c'est une solidarité, on va dire, entre les communes et les territoires, et c'est une réelle volonté politique, parce que si on paye ce montant, c'est parce que l'État juge que nous pourrions augmenter nos impôts locaux, et que nos impôts locaux étant plus bas que ceux des strates équivalentes, eh bien nous devons payer, compenser par rapport aux autres territoires. Je vais faire un zoom sur les dépenses de personnel, puisque c'est quand même nos dépenses les plus importantes. Donc c'est bien que chacun connaisse la constitution de notre personnel au niveau de la commune. Donc les charges de personnel s'élèvent à 14 124 773 euros en 2018, ce qui représente le premier poste des dépenses. Au niveau de... Entre 2014 et 2018, l'évolution a été maîtrisée puisqu'elle est de 2,26%. Les fortes variations qui sont intervenues ensuite de 2015 à 2016, ça correspondait tout simplement au nouveau rythme scolaire qui a entraîné des charges supplémentaires, puis le transfert vers l'agglomération du Pays de l'Or, qui ensuite a entraîné une diminution des charges, et maintenant on revient sur une nouvelle organisation, donc ça va encore fluctuer. Alors, il a été observé sur 2018 une augmentation des dépenses liées aux agents contractuels qui ont été recrutés en remplacement de fonctionnaires qui ont été momentanément indisponibles. Donc ça, c'est essentiellement, bien sûr, les maladies. Cette augmentation des charges de contractuels a été compensée en partie par le départ non prévu de fonctionnaires qui ont tout simplement demandé à être mutés. Pour rappel, la masse salariale est impactée chaque année par des dispositifs légaux qui s'imposent aux collectivités locales. Alors, c'était le salut d'avant. Le dispositif de parcours professionnel, la valeur du point d'indice des fonctionnaires et le jour de carence qui a été réintroduit au 1er janvier 2018. Le montant total des retenues effectuées à ce titre s'élève à 13 918 euros pour l'année 2018. Mais l'évolution de la masse salariale, c'est également dû à l'évolution des effectifs permanents et non permanents, c'est-à-dire saisonniers et renforts, et l'évolution des composantes de la rémunération, c'est-à-dire tout ce qui est heures supplémentaires, carrière des fonctionnaires, qui là dépend d'une volonté de la commune. Au niveau des effectifs de fonctionnaires, donc là, voilà, vous avez un slide où vous voyez l'évolution du nombre des personnels, alors fonctionnaires. Sur 2018, on vous a rajouté une case à droite, puisque 305 personnes n'est pas tout à fait le nombre exact, puisque nous sommes réellement 312 en théorie. Mais, alors, on vous l'explique par un petit schéma où il y a eu 7 postes du tableau, que c'est 7 postes, voilà, non pourvus en 2018. Donc, le nombre réel est de 312 fonctionnaires sur la commune. Alors, le GVT, c'est le glissement vieillesse-technicité. Ça, ce sont les avancements d'échelon pour les fonctionnaires. Pour 2018, le coût de ces avancements d'échelon a atteint 72 000 euros. Ensuite, vous avez aussi les avancements de grade. Pour l'année 2018, le montant est de 68 000 euros. Donc, une augmentation estimée à 140 000 euros au total. Au niveau des contractuels saisonniers, entre 2014 et 2018, il y a une forte baisse, puisque c'était une volonté politique aussi de faire attention, sans dégrader le service, bien sûr, de la collectivité publique, mais de faire attention à prendre des saisonniers uniquement pour les services qui étaient impactés par l'activité estivale. Donc, les saisonniers ont diminué de 18,6% sur cette période, entre 2014 et 2018. Alors, on a aussi eu des indemnités de départ volontaires. Donc là, vous avez le montant. Deux agents qui sont partis en 2018 et l'impact sur la masse salariale était 55 000 euros. Et ensuite, la valorisation du régime indemnitaire. Donc ça, c'est le choix de la collectivité. Un impact sur la masse salariale de plus 35 000 euros. Sur ces dépenses de fonctionnement, c'est que l'enjeu pour la commune de Mogio-Carmont est de préserver ses soldes d'épargne, vous l'avez vu, c'est-à-dire garder des finances saines, et ça passe bien sûr par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont une maîtrise de l'évolution de la masse salariale, puisque c'est le poste le plus important de nos dépenses. Au niveau des recettes de fonctionnement, parce que face à ces dépenses, nous avons quand même des recettes, donc, total. Merci. Vous avez pitié. C'est gentil. Total des recettes de fonctionnement. Pour 2018, 26 422 000. L'augmentation, je vous le disais tout à l'heure, elle est, j'allais dire quasi nulle. Elle est moins que quasi nulle puisqu'elle a moins 0,14. On va dire qu'elle stagne entre 2017 et 2018. C'est pour ça qu'il faut faire attention et rester vigilant pour conserver nos épargnes. Donc, tout ce qui est... impôts directs, 11 811 000, donc une augmentation d'1,49. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est juste les bases qui augmentent, puisque la commune a fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux. La fiscalité indirecte, c'est tout ce qui est taxe sur les produits de mutation, ça représente 11 482 000 euros, pardon. Les dotations, 1 183 000 euros. Donc là, on voit encore une baisse de 4,77 par rapport à 2017. Je pense que je ne rentre pas plus dans le détail pour les recettes de fonctionnement, à part bien sûr s'il y a des questions après. Donc, ce qu'il faut retenir pour ces recettes de fonctionnement, c'est qu'elles stagnent alors que nos dépenses réelles, elles, augmentent d'un 1,81%. Donc, l'optimisation des recettes demeure l'enjeu. Pour l'ensemble de la collectivité territoriale. C'est un travail approfondi sur des créations de nouvelles ressources pour la collectivité qui devrait permettre de relancer le dynamisme des recettes de fonctionnement. C'est comme par exemple le mécénat, avec les services, on est en train de faire un gros travail sur le mécénat, des nouvelles recettes du domaine public et de la tarification à revoir.
On sait combien va rapporter en base la première tranche de la fin de Mogio, sur 2020 par exemple.
En termes de...
ça fait 1 million de plus, en foncière, en habitation. On l'a pas proche.
On l'avait estimé parce que pour les prospectives financières, on est bien obligé de tenir compte. Alors, toujours pas forcément prudemment. Voilà, estimé prudemment.
C'est de l'ordre de la centaine de milliers ou
300
milliers plutôt.
Oui. Pas de la centaine.
On est à 240 logements pour 2020. Si c'est fini.
La
première tranche, une première maison sera construite en 2020. Est-ce que nous aurons besoin d'un construit en 2020 de la première tranche?
Ouais, disons qu'en 2021, ça fait 1000 par appartement ou maison, en moyenne. Ça fait 200 000.
1000.
On a des appartements. Vous avez des 80 000, etc.
Je crois que c'est pas la majorité.
On vous donne les éléments à la commission finale, parce que on vous donne les éléments.
Il y a, c'est-à-dire qu'il y a de la dynamique fiscale est là.
Bien sûr. Alors, on passe à la section d'investissement. Elle est plus courte, rassurez-vous. Au niveau des dépenses d'investissement. Total des dépenses réelles sur 2018, vous avez le tableau, on est à 7 095 000 euros. Taux de réalisation, c'est-à-dire la réalisation de tous les projets qui étaient prévus, 81%, c'est excellent. Une évolution d'investissement par rapport à 2017, 23% de plus d'investissement. Dépenses d'équipement, bon ben ça c'est forcément c'est lié à l'investissement, c'est tout ce qui est études, travaux, matériel, 6 125 000. Forcément, quand l'investissement augmente, ces dépenses-là qui en sont à l'origine augmentent aussi, donc 26%. Tout ce qui est subvention d'équipement, 20 000 euros, bon ça c'est pas très significatif, c'est nos participations par exemple sur le barreau de liaison qui est fait sur la zone.
Aéroportuaire.
Remboursement du capital de la dette, donc 941 000 euros. Et des autres investissements, 7 000 euros. Ça, c'est pas significatif par rapport au montant total. C'est une consignation qu'on est obligé de faire. L'État nous oblige dans le cadre d'actions en justice. Donc le tableau, vous l'aviez là. Donc le taux de réalisation, je vous disais 80%, c'est excellent. Les recettes, donc là aussi, hein, merci au service, parce que derrière, ça demande un travail à partir des marchés publics jusqu'aux techniciens qui réalisent un travail énorme. Les recettes de financement, donc total des recettes réelles d'investissement, 1 953 000 euros, évolution 54%. FCTVA, ben, là aussi, forcément, ça augmente, puisque plus on va faire d'investissement, plus on va avoir un retour de TVA, donc 651 000 euros, une augmentation de 45%. Et les subventions liées aux investissements, ben, forcément, plus on investit, plus nos services vont chercher des subventions, et ça représente 730 000 euros, une augmentation de 81%. Taxe d'urbanisme, 83 923 euros, qui nous sert aussi à financer nos investissements. Pas de prêt sur 2018, je vous le disais, il sera sur 2019. Et des recettes diverses, 247 000 euros. Voilà, vous avez l'évolution des recettes.
Vous avez d'ailleurs, hein. Au niveau de la dynamique des recettes d'urbanisme, les entreprises, on a beaucoup d'entreprises, j'en profite pour donner la communication, qui s'installent aujourd'hui sur Fréjorgues-Est. C'est-à-dire qu'au lieu dit la Mougère, vous avez pu voir dans la presse qu'ils allaient couvrir assez généreusement l'installation de la construction de moto, BMW en l'occurrence, avec 5000 m² de locaux de stock et de showroom. Dans le même temps, la promotion et des différentes entreprises sur les 5 hectares de la Rougère est quasiment terminée. À terme, c'est 1000 emplois. En dehors de ces emplois, c'est également du foncier qui va nous permettre de percevoir des taxes qui vont revenir à la commune. Parallèlement, vous avez sur l'avenue Jacqueline Auriol 12 000 mètres carrés de bureaux que la société CFC Promotion est en train de réaliser. Ils accueilleront d'ailleurs au plus tard le 2 janvier prochain 800 agents du terrain agricole qui ne sont pas que des créations. C'est une mutation plus un renchérissement. Donc nous avons par exemple inauguré la semaine dernière sur la zone amoindrie de l'aéroport l'internat des étudiants cofinancés par la région au niveau de l'alternance des ingénieurs via la création d'une cinquantaine d'appartements pour loger les étudiants. Donc il y a une très grosse dynamique au niveau de ce qui est entreprise. Au passage, j'en profite pour dire qu'il y a une aide consentie par l'agglomération, c'est-à-dire nous aussi, pour l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire les entreprises qui sont innovantes avec des nouveaux métiers et qui font de gros investissements et qui s'engagent dans les 5 années à venir à créer un certain nombre d'emplois. Donc je peux dire que le territoire, compte tenu de la raréfaction du foncier, est aujourd'hui l'objet de convoitises de la part de grands comptes, ce qui nous permet de... Alors, tirer notre épingle du jeu, j'aimerais que ce soit l'aiguille à tricoter. Bon, en fait, on arrive quand même à valoriser, et à mon sens, on va retirer davantage de recettes. Alors là, pour le coup, ça sera one shot. De cette valorisation foncière au niveau de l'économie par rapport au versement récurrent des contributions sur les taxes d'urbanisme qui arriveront sur la zone de Mouillon, mais dont l'extension dans un horizon assez rapide n'assurera pas pour autant une recette importante. Mais comme l'État compensera, nous sommes quand même liés à cette incertitude qui, j'espère, sera levée le plus tôt possible.
Administratif, donc au niveau du financement de l'investissement, c'est-à-dire comment nous finançons notre investissement. Le total des dépenses d'équipement est de 6 146 000 euros sur 2018. Comment nous l'avons financé? Avec notre épargne nette, 2,4 millions, avec le FCTVA qui revient des investissements à hauteur de 651 000 euros. Autre recette, 571 000, c'est tout ce qui est les taxes d'aménagement. Et un produit de cession, les immeubles que nous vendons, 28 000 euros. Donc ça nous fait une ressource financière propre de 3 683 000. Les subventions perçues, 730 000 euros. Et un financement total de 4 414 000 euros. Donc là, on voit qu'on a un financement total de 4 414 000 euros pour une dépense d'équipement de 6 146 000 euros. Donc il nous en manque un peu, c'est 1 700 000, rien de grave, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est là où on va piocher ensuite sur nos fonds de roulement, c'est-à-dire ce qu'on arrive à dégager de nos dépenses et recettes de fonctionnement. C'est ça, c'est moins confortable.
On ne peut pas dire qu'il souffre parce qu'il en a dit qu'il n'existait pas.
Non, tout à fait. C'est pour ça que vous voyez qu'un petit rictus, mais rien de plus, pas de commentaire. Alors, le fonds de roulement va servir à financer, c'est ce que je disais, la différence. Sur l'ensemble de la période, la ville de Mouguio-Carnon a réalisé 22 millions d'euros de dépenses d'équipement avec un pic de dépenses en 2018 de 6,1 millions d'euros. Ces dépenses sont couvertes à 82% par nos ressources propres. Elles sont de 18 millions d'euros sur la période. Et enfin, les subventions qui ont été perçues et liées à notre plan d'investissement constituent le troisième et dernier poste de source de financement, qui est de 3 millions d'euros sur la période, soit une augmentation de 14%. Encore une fois, merci au service. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la programmation des investissements s'inscrit dans le temps. Le financement des investissements est assuré au travers du plan pluriannuel d'investissement, ce qu'on appelle le PPI, et qui est ambitieux. Alors après, je vous ai mis des ratios, je pense que vous avez assez parlé des ratios. Je vais juste vous mettre vous présenter le tableau de synthèse final du compte administratif sur 2018. Le voilà. Donc, en fonctionnement, on a eu sur 2018 des recettes de l'exercice à hauteur de 26 502 000. Les dépenses de fonctionnement, 23 964 000. On a donc un excédent sur l'exercice de 2 500 000. Vient s'ajouter l'excédent antérieur, cumulé de 2 800 000. Donc ça nous fait un excédent global de 5 400 000. En parallèle, bien sûr, on investit. Donc recettes d'investissement, 7 300 000. Dépenses d'investissement, 7 100 000. On a un excédent de 220 000 euros. Il y a un déficit antérieur d'un million. Alors, un déficit antérieur, quand on dit déficit, ça fait un peu peur. On va dire un besoin de financement d'1,536 million. Le besoin de financement de clôture de 2018 d'1,3 million. Les dépenses engagées qui n'ont pas été encore mandatées, c'est-à-dire qui ne sont pas encore passées dans la comptabilité, 2,4 million. Les recettes notifiées non encaissées encore, 1,1 million. Et ça nous fait un besoin de financement de 2 657 000 à affecter au résultat. Donc reste pour le résultat, pour ce qu'on appelle le compte 002, 2 758 491 000. Ça, c'est ce qu'on aura sur le point d'après à affecter. Donc je ne vous referai pas tout le détail, à part évidemment s'il y a des questions. Je vous fais un petit zoom sur la dette. Gestion active de la dette. Bien sûr, notre dette, notre dette est à 100% sur des taux fixes. Notre taux moyen de dette est d'intérêt sur les prêts est un petit peu plus élevé que les autres communes de la même strate. On a bien évidemment fait les démarches pour aller les négocier auprès des banquiers, sauf que les frais nous coûtaient plus cher parce qu'on est en fin de prêt sur énormément de prêts. Donc, aucun intérêt d'aller renégocier certains prêts. On en a négocié certains, d'autres sont arrivés à terme. Et ce qu'on a conservé à ces taux-là, c'est parce que c'était plus intéressant pour la commune, bien sûr. Une durée résiduelle en baisse est inférieure par contre à la moyenne. C'est-à-dire que la durée qui nous reste pour rembourser les prêts est inférieure à celle des communes de même taille. Encore plus vite. Alors, notre dette est classée 100% 1A, bien sûr, il n'y a pas aucun produit toxique dans nos prêts. Et notre ratio d'encours dette-recette est excellent, on l'a vu, puisqu'on a une capacité de désendettement qui est très basse et très peu d'endettement. Donc, au niveau du compte administratif de Mobilio Carbon sur l'année 2018, on peut dire qu'on a une santé financière qui est excellente, qui permet de financer de beaux projets qui ont été faits sur 2018 et à venir, sans augmentation de la fiscalité. Et puis, je dirais, parce que c'est quand même pas une fin en soi d'avoir de bonnes finances, ça nous permet surtout aux habitants de Mobilio Carbon de bien vivre et d'être dans un endroit où il est agréable de vivre. Et de nombreux habitants le reconnaissent. Donc, vu que les finances doivent quand même, dans un premier temps, servir qu'à ça, et bien je suis heureuse de pouvoir dire que les finances sont bonnes. Et vous demandez si vous voulez bien voter le compte administratif. Alors, juste une petite précision. En annexe, vous avez eu tout le détail de tout ce qui a été fait par service sur l'année 2018. Parce que c'est, on ne s'en rendait pas bien compte, mais c'est énorme. Alors, chaque délégation a mis les réalisations, mais il y a tous les services qui sont, j'allais dire, induits. Services des finances, services des marchés publics, les services techniques, tout ce que tous ces gens de nos services font et qui ne sont peut-être pas visibles comme ça à l'œil nu de suite, mais sans leur intervention, ce serait impossible. Donc, vous avez l'annexe. Sur les annexes, de tout ce travail qui est fait, notamment le nombre de cartes nationales d'identité, de passeport, enfin, c'est énorme tout ce qui est fait au niveau des services.
Nous attendons des questions, s'il y en a. Merci Caroline.
Oui. Et d'abord, je voudrais revenir une minute sur le compte rendu du dernier conseil municipal, parce que le document que vous avez circulé n'a pas été modifié. En fait, il y avait le document qu'on a signé tout à l'heure. En fait, il y avait un problème sur le point numéro 12. J'en profite pour dire pourquoi il y a eu un problème sur ce point. Ce point concerne l'antenne relais sur le parking Carnot-Ouest. Dans le premier compte rendu, il avait été écrit que que quatre personnes s'étaient abstenues ici. Or, nous trois, les élus de la fabrique, nous avions voté contre.
Oui.
Alors, j'en profite pour vous dire, donc j'aimerais que le compte rendu soit rectifié à ce sens.
Moi aussi, j'avais voté contre. C'est-à-dire ? Moi aussi, j'avais voté contre.
Quatre contre. D'autres ?
Voilà. J'en profite pour vous dire qu'il y a une association à Carnot-Ouest qui s'appelle l'association Les Ganivelles, qui vous interpelle au sujet de cette antenne. Je pense que vous envoyez un courrier, que vous l'avez reçu. Voilà, j'espère que vous en tiendrez compte. En fait, ils sont très inquiets par l'implantation de cette antenne. Il y a quand même 140 personnes qui ont signé cette lettre. Donc voilà, je vous demande de réfléchir, de retravailler sur ce projet, puisqu'il n'est pas encore... à vous. Pour revenir à nos comptes, à notre comptabilité. Alors vous dites à juste titre qu'il faut aller chercher de l'argent, ça va augmenter les impôts. Et moi je trouve quand même que d'une manière générale, le taux de subventionnement il est très faible. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire en la matière, de gros efforts en la matière. Et puis il y a des sujets, donc comme la capitainerie par exemple. Alors là, c'est pareil, à la capitainerie, il y a une pétition actuellement qui circule à Carnot, qui a déjà eu plus de 100 signatures. Cette pétition demande tout simplement à M. le maire d'expliquer à la population avec des documents précis, techniques, pourquoi c'était moins cher de la démolir, de la reconstruire, plutôt que de la rénover pour la mettre aux normes et pour la rénover. Alors les gens trouvent que voilà, 1 700 000 euros, in fine ça sera 2 millions d'euros quand on aura payé les études et tout le reste. Voilà, les gens de Carnot, donc ce sont les citoyens de Carnot, hein, c'est pas une pétition qui émane de nous, c'est une pétition qui émane des citoyens de Carnot, vu que j'ai entraîné. Donc elle est sur Internet et elle circule sur papier dans Carnot.
Monsieur Bourguet, vous êtes bien gentil. Nous sommes, je vous laisse bien sûr la parole parce que j'ai une démocrate. Le relais, c'est vous, finalement, l'antenne, c'est bien. Nous sommes en train de parler du budget de la commune. Permettez-moi de vous dire.
Je parle du budget, là.
Oui,
permettez-moi
de vous dire.
De la capitainerie.
Permettez-moi de vous dire que la capitainerie, ce n'est pas du tout le budget communal. Ce n'est pas du tout le budget communal, c'est un budget annexe. C'est un budget qui n'a pas.
On en parlera tout à l'heure, on en parlera plus tard.
On
n'a pas repris le numéro.
On en parlera tout à l'heure. Pour les suppressions, madame Fabien, vous voulez dire quelque chose?
Je voulais juste savoir, parce que quand je vois notre taux de subvention qui est très bon, juste savoir pour ma culture personnelle et toujours dans l'objectif de travailler mieux et toujours plus pour la commune, sur quel chiffre vous vous basez pour dire que nos subventions ne sont pas suffisantes?
Non, mais je me base sur le chiffre global, je crois que sur 22 millions...
Non, monsieur Bourguet, on ne peut pas se parler comme ça. Il faut que, moi, pour moi progresser, il faut me dire sur quel chiffre concret vous vous basez. Vous ne pouvez pas me dire, dire comme ça aux gens qui travaillent pour trouver des subventions toute l'année.
Je ne reproche pas aux gens qui travaillent, je dis simplement que peut-être qu'on ne s'intègre pas suffisamment dans certains dispositifs. Et qu'ensuite on est obligé de se faire de l'autofinancement. Je pense par exemple au PAPI. Le PAPI, il y a 19 millions d'euros, il y a moins d'un million qui a été demandé pour notre commune. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que nos projets ne s'intègrent pas dans certains dispositifs.
Non, le PAPI, je suis bien passé pour vous en parler. Le PAPI est un document, c'est une mise en œuvre d'une politique de prévention. Le combat contre l'inondation, avec territoire par territoire, des enjeux qui sont identifiés. Madame Lebon pourrait vous en parler puisqu'il est question du calvé. Monsieur Galibert, pourrais vous dire qu'au niveau de l'agence, il y aura également des affectations de subventions. Et je pourrais conclure provisoirement ce sujet en vous disant que par le passé, la commune a beaucoup travaillé pour justement prévenir contre les inondations, notamment au niveau de la valorise qui s'est fait dans les années 2006, et ensuite au niveau d'opérations comme l'avenue Chamboulet aujourd'hui pour le fond de Bouillon, il y a des mesures préventives qui ont été opérées, ce qui fait que le papy, lui, il vient en remédiation. Voilà. Donc, tant mieux, s'il y a moins d'opérations subventionnables pour le papy sur notre territoire, quelque part, c'est qu'il y a une partie du travail, essentiellement, qui a été réalisée.
Et bon, il y a encore beaucoup à faire, hein, Mathias.
Oui. Bien.
Donc voilà, tout pour le moment. Ensuite, dans le... Bon.
Si c'est tout, monsieur...
Non, c'est tout.
Monsieur Montrevoisin a demandé la parole.
Oui. Une seconde. Je voulais juste dire un petit mot parce que vous dites... Alors, à propos, bon, vous parlez de... Dans le... Ce qui a été fait en 2018, vous parlez de la fonte de Mouquio. Donc là, on vient de recevoir qu'il va falloir donner 700 000 euros à la Chambre d'agriculture. Je voulais savoir, pour vos agriculteurs, je voulais savoir si c'est la commune qui va le payer ou si c'est le budget de fonds de Montréal.
Vous connaissez la réponse, M. Bourguet. Combien de fois faudrait-il que je vous dise que c'est un budget qui est...
Non, nous sommes cassés, nous le payons.
Non. C'est un budget qui est unique, qui est spécifique, merci. Qui est spécifique, c'est un budget autonome. Ce n'est pas un budget qui impacte les finances publiques, vous savez très bien.
Non, mais bon. La dernière fois, l'histoire des
guerres... Vous êtes un compositeur-compositeur interprète, je vous demande peut-être de changer le disque, parce que...
Non,
chaque fois, pas dit. Vous laissez avancer...
Et la dernière fois, dernière fois, on a vu... que les terrains, ça nous coûtait de l'argent à la commune. Donc là, je vous demande, est-ce que ça va coûter de l'argent?
C'est un peu ça, c'est du tout. Bon, allez. Et vous aussi, vous avez besoin de progresser, comme Mme Favier, elle essaie de vous demander de progresser, écoutez ce qu'on vous dit, quand même, aussi. Allez, M. Favier, vous avez la parole.
Merci, M. le maire. Merci, Mme Favier, pour votre exposé. J'avoue que dans les chiffres, même chez moi, je me suis pensé dessus, c'est pas toujours évident de le C'est clair. Par contre, M. le maire, dans vos dépenses, je n'ai pas vu un panneau d'éviation Villette sur la vue de Jean-Michel.
Juste pour la petite histoire. Sur 6 millions d'investissements, oui. Je vous remercie de noter qu'il m'a mis un panneau.
Voilà. Maintenant, c'est, je vous remercie, moi, de noter que, comme je vous l'ai dit, sur mon glissement, les gens sont venus au même sur cette histoire d'éviation. C'est particulièrement désagréable. Je vous remercie. Bon, ça, ceci dit, c'était juste pour en rajouter. Moi, je sais que ce que je vais vous demander, ça va vous agacer, c'est bien. Vous savez très bien que j'ai très à cœur de savoir quelle est la participation de Canton au niveau des taxes impôts qui sont ajoutées sur le compte commun de la commune de Bouillon. Je vous l'ai déjà demandé plusieurs fois, par écrit même. J'ai même une décision de la CADA que j'ai amenée ici, qui me donne la possibilité d'avoir accès à ces documents. Donc je vous demande aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir un compte, un décompte particulier de Carlo par rapport à
vous ? Voilà un document qui a été effectivement réalisé pendant cette mandature, où globalement nous en sommes à un quart de recette pour un tiers de dépenses. On vous donnera le document.
Oui, ah, c'est parfait. Mais écoutez, je vous l'ai demandé depuis un certain temps. Que j'avais pas compris.
Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des chiffres, c'est assez complexe. Ça ne peut pas se résumer, Madame Favier me corrigera, ça ne peut pas se résumer en disant voilà ce que valent les uns, voilà ce que coûtent les autres. C'est pas comme ça quand même que je le fais.
Je m'en doute,
bien. Parce qu'il y a quand même des fonctionnements, vous avez noté comme moi qu'on met 6 millions d'euros dans le plan pluriannuel d'investissement jusqu'en 2024. Pour Carlo.
Oui,
et si vous regardez les réalisations qui ont été faites dans cette mandature à Carlo et à Mondio, et si vous faites un ratio, le ratio est avantageusement, peut-être d'habitants, à Carlon. Mais pour moi, c'est pareil, parce que les Carlonais et les Mémoriers sont des habitants du même commune. J'ai comme frère et une sœur, je ne vais pas dissocier ce que nous octroyons, c'est de l'argent public, c'est pas bon ou noir, du maire ou du conseiller municipal. Et d'ailleurs, je vous remercie souvent de venir nous rappeler que il faut s'occuper de tout le monde, y compris des panneaux, y compris des gens qui sont en difficulté. C'est votre rôle, mais c'est le rôle de la démocratie, monsieur Brunet.
Si vous voulez faire, on est là pour ça, monsieur Brunet.
Tout à fait, je suis là.
Tout à fait. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'était pas un tour par rapport au nombre d'habitants d'un côté de l'autre, c'est par rapport aux questions qui, ce que les gens me font remonter au niveau des gens que je rencontre à Carnot, et qui nous disent on passe nos impôts parce que, par rapport aux réalisations qui sont faites au niveau de Carnot, les gens n'ont pas. Une image de réalisation à Carnot comme celles qui sont faites à Montréal.
Oui, par exemple quand je parle avec mes copains comme vous parlez avec les vôtres, mais moi avec mes copains, j'ai pas des copains qui s'opposent puisque j'essaie d'écouter ce qu'on me dit. Et quand on voit que, on va le voter tout à l'heure dans un point sur l'entretien du Lido, qui, de mon point de vue géographiquement, est plus du côté de Carnot que du côté de Montgur, donc je me trompe. Bien, les Mémoriens, quand ils vont payer 33 000 euros pour rénover, pour qu'il n'y ait plus d'ornières, pour qu'il n'y ait plus de poussière, eh bien, c'est au bénéfice des gens qui vont à la plage. Ce n'est pas spécifiquement une dépense à laquelle chaque Mémorien passe à se lever. On va pas s'amuser à ce petit
jeu. Peut-être qu'il faudrait revenir en amont de l'histoire du Lido et se poser la question de savoir aujourd'hui si les travaux qui ont été accomplis au Lido à l'époque étaient utiles ou pas.
Et à l'époque, M. Papouli, vous savez très bien que nous travaillons pour la renaturation d'un site, on est contre l'artificialisation du trait de côte, et j'en préside un syndicat qui s'y emploie. Nous essayons de trouver des équilibres entre un tourisme éthique, un tourisme respectueux de l'environnement, et Dieu sait si l'environnement a été mieux traité avec des aménagements qu'Alfred Peter, le paysagiste, a conduit, avec une version aujourd'hui qui est au niveau végétalisation, le niveau respect de l'environnement, mieux affirmé qu'elle l'était avant. Donc on ne peut pas dire, et vous verrez au mois de septembre, nous ferons le compte rendu des ateliers participatifs qui se sont déroulés pour justement travailler sur le projet Carnot 2030, vous verrez que les propositions que nous avons entendues et les demandes des habitants de Carnot seront traduites par une végétalisation et justement une renaturation de la ville que chacun a fait de tous ses voeux. On se retrouvera là-dessus, M. Tramboli. On aura de toute façon. Vous n'êtes pas le porte-parole de certains et moi le porte-parole de d'autres. Bien entendu, votre sensibilité et votre rôle appelleront peut-être l'oreille plus attentive à certaines critiques de ce que la majorité à la place conduit. Et de mon côté, je pourrais vous répondre, ils sont plus nombreux, puisque c'est la majorité, des gens qui sont plutôt contents et pas contents. On va pas s'amuser à offrir aux personnes qui sont venues nous écouter ce soir, écouter les décisions, ce spectacle qui n'est pas un spectacle de grand niveau. Nous sommes là pour justement écouter les citoyens, essayer de mettre en face un budget, et c'est ce que Mme Favier vient de vous exposer, un budget qui répond à ses attentes et qui répond aussi à notre vision du développement de la ville, de mon lieu et de Carnot.
Mais je suis tout à fait d'accord par rapport à votre raisonnement, monsieur le maire, simplement. Comme vous dites, je n'ai pas forcément le même retour que vous et mes amis de Carnot. Et je suis là pour le faire remonter. Et là, je ne pense pas que les gens qui sont là, qui sont derrière nous, pensent que ce n'est pas un spectacle préservé. On est là pour débattre, j'essaie de débattre du mieux possible, sans m'énerver, c'est rare.
Ouais. Ah, vous énervez.
Et voilà, donc moi je vais vous faire remonter ce que les gens me font remonter.
Très bien. Monsieur Brodeil.
Sur deux points où je partage entièrement avec vous, sur la nécessité de stabiliser par rapport aux recettes et à l'extension possible de la réversion de l'État sur la taxe d'habitation. Donc là, il y a un sujet d'inquiétude. Donc là, il faudrait que l'État se positionne assez vite. Après, il y a deuxième question aussi c'est 1.2, hein, l'évolution de la taxe. Ce 1.2, si j'ai bien compris, ne tient pas compte du fait qu'on prenne ou pas de nouvelles compétences. Par exemple, qu'on récupère certaines compétences de l'agglo, on l'a fait là sur l'aménagement de certaines avenues et sur, par exemple, le fait de récupérer les encombrants.
C'est compensé.
Oui, c'est compensé, mais
dans la commission de transfert des charges, si nous le faisons, on nous le rembourse. C'est notre.
Mais j'entends bien, mais est-ce que ça nous empêche est-ce que ça fait partie de 1.2, le fait de prendre plus de compétences, ou est-ce que c'est neutralisé?
Si c'est compensé, du coup, ça va venir effacer l'augmentation.
Oui, mais ça va augmenter le volume.
Ah, le volume va augmenter.
Et donc, ça va revenir à 1.2.
Oui, mais si c'est compensé, j'aurai aussi en recette.
Non, pas de problème, mais c'est simplement, vous ne rentrerez pas dans la fourchette d'évolution si vous décidez de prendre une nouvelle. Et que vous êtes au plafond, même si vous l'avez équilibré, vous allez avoir une contrainte d'État qui vous empêche d'augmenter. Or, cette décision-là est une bonne décision et en plus elle est compensée. Donc là, on est bien dans une difficulté sur la libre administration des communes. Ça pose un problème.
Il y en a d'autres qui ne sont pas compensés. Quand on fait le choix d'embaucher 6 policiers municipaux supplémentaires, ça sera, j'allais dire, au détriment de l'ensemble des 315 personnes qui travaillent pour la collectivité dans l'affectation de certains services. C'est-à-dire qu'on va prioriser, on le fait pour la propreté, on le fait pour la sécurité, mais on ne peut pas, en état vertueux au niveau des finances, en rajouter sans que le niveau l'augmente. Ce qui veut dire que dans la gestion humaine des ressources humaines, dans certains services, nous essayons de voir comment on peut rattraper les pas de terre, mais en fait équilibrer, si vous voulez, ces choix politiques qui sont faits pour justement renforcer nos priorités.
J'allais venir exactement au même exemple, mais pour le dire différemment, on nous demande de réguler notre consommation de crédit sur le fonctionnement et d'en stopper la progression, alors que sur le régalien, on est obligé de compenser les manques de l'État. Donc là, on a la dragée est difficile à avaler.
On est mal parfois.
Oui, non, mais ça c'est un problème. On a un problème dans notre relation avec l'État.
Quand on voit que, par exemple, pour apporter de l'eau à votre volet, puisqu'il s'agit du 10 et de l'été, le service incendie, plus ça va être 2000 euros. Il faut savoir, dans une petite explication, le département s'est aperçu que la contribution des communes à ce qu'on appelle les poteaux d'incendie, c'est-à-dire l'aide qu'apporte le syndic, le service départemental d'incendie de secours, n'était pas, au regard des populations, bien calibrée. Ce qui nous a valu une refonte avec une plus-value en termes financiers, mais pas une plus-value en termes humains. Le service est déjà assuré. C'est-à-dire que ça a été 122 000 euros, c'est quand même un point d'impôt. Vous voyez ? Même dans les collectivités territoriales, il y a parfois des hausses de contribution qui sont incompressibles, comme vous disiez.
Sur la gestion, bon, au-delà de ces problèmes dans nos relations avec l'État, qu'il va falloir clarifier, il va falloir dire qu'ils abusent. En nous serrant et en plus en faisant dans leur métier, il y a les problématiques proprement communales et municipales. On a effleuré une ou deux fois dans nos échanges le fait que les investissements d'aujourd'hui, ça ferait certainement une partie des recettes fiscales de demain, que ce soit quand plus d'habitants s'établissent à Montguyot, ou quand nos enfants s'établissent à Montguyot au lieu de partir ailleurs, parce que c'est plutôt ça, hein, le niveau. Ça fait des recettes, ça fait un élargissement de l'assiette, donc ça fait, il y a une solution, voilà, y compris quand des des entreprises s'établissent à Montguyon ou à Carnon, ça fait une augmentation de nos recettes. Je reviens au FPIC. Hein, là, il y a un gisement de 500 000 euros sur un fonds de compensation horizontal entre communes. En fait, il y a un ratio avec l'impôt qui est demandé, mais il y a un ratio aussi avec l'assiette fiscale par tête éligible, le revenu moyen par habitant. Le revenu moyen par habitant. Quand on, et c'est le revenu moyen par habitant de l'agglomération. Et dans l'agglomération, une des villes les plus riches en revenu moyen par habitant, c'est Montguyon. Donc quand on fait baisser le revenu moyen de Montguyon, on fait baisser le revenu moyen de toute l'agglomération. Il y a donc comment on fait pour faire baisser le revenu moyen massivement. Donc soit on pas un bourgeois, c'est une possibilité que je préconise pas, soit on s'arrange pour qu'il y ait plus de familles, parce que s'il y a plus d'enfants, le revenu moyen tombe mécaniquement. Donc il faut avoir des stratégies qui accompagnent l'établissement de nos propres familles et de nos propres enfants. C'est là on a la bataille sur le logement social. C'est là qu'il faut aller. Mais il y a un vrai gisement, si on se rapproche de la moyenne nationale, il y a 500 000 euros là qu'on peut faire baisser.
Alors, mettre en place une politique de natalité, je pense pas que
ça... Non, de logement.
Par contre, le logement, je crois qu'on est déjà sur la bonne piste avec la fonte de Montguyon. Enfin, je pense qu'on est d'accord
sur le rajeunissement, quelles que soient les formes, sur le rajeunissement des gens qui s'établissent à Montguyon, ça doit être... Et donc avec une approche sociale, oui, évidemment, on récupère les plus jeunes là-dessus, il n'y a pas de souci.
Ça, je crois qu'on est tous d'accord, hein, de ne pas vouloir une population vieillissante et qu'on dynamise de la commune pour les commerçants.
Et ça nous coûtera moins cher fiscalement, puisqu'on n'aura pas cette péréquation horizontale à faire. Dernier élément, là, on est à 6 millions d'investissements, ce qui est une belle augmentation, puisque le combat était à 4,5 millions. Donc là, on est à 6 millions, on va dans le... on l'a vu, parce que le château est sorti. Donc on est dans la réalisation des caisses, donc là on va mieux. Ceux qui s'en plaignent, c'est le matelas qui crie. Mais ça pourra générer, si on continue sur ce genre d'approche, ça va générer forcément des recettes pour demain. C'est en face des aménagements. Donc ça ne fait pas que se vider.
Fort heureusement, il y a de l'avenir. Tout ne s'arrêtera pas à la fin de ces investissements.
Donc, cette politique d'investissement est une bonne politique.
Merci.
Non, mais.
En tout cas,
ce qui a été marquant, c'est que tout le début du mandat, on s'est râlé après le matin.
Oui.
Et donc là, il enfle depuis longtemps.
Comme quoi,
voilà. On voit des. Non, mais là, on voit des politiques se mettre en place.
Donc, comme quoi, la perspective était bonne. C'est-à-dire que ce n'était pas un matelas, mais bien nous donner la capacité financière de réaliser les investissements. Vous savez que c'est long. C'est...
On le verra dans son dernier budget, ça. On le verra dans son dernier budget.
J'y serai.
Bien. Donc, merci au sein des autres d'avoir débattu. Je suis mal placé pour conduire la suite des débats, puisque je ne peux pas assister, donc je confie la parole à Mme Fabier pour le passage au vote du compte administratif.
Donc pour le vote du compte administratif, qui est contre ?
Non, je n'ai pas ça.
Alors, monsieur le maire sort puisqu'il n'a pas le droit de voter son bilan du compte administratif. Voilà, alors maintenant qu'il est sorti, pour le compte administratif, pour le vote, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Monsieur le maire.
Alors,
le compte administratif a été voté. Le point numéro 3, c'est l'affectation définitive du résultat. Donc, je ne vous reprends pas, c'est le dernier tableau qui était affiché où vous avez le détail de l'exercice de fonctionnement, investissement. Donc, c'est tout simplement pour l'affectation des résultats.
Oui, que vous passez en vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Et maintenant, le point numéro 4, donc c'est le... Alors bon, avant le compte administratif, j'ai le compte de gestion. C'est exactement la même démarche. Hein. Donc, compte de gestion, c'est le trésorier qui valide l'ensemble des opérations qui ont été passées sur l'année 2018. Donc là, c'est au niveau de la conformité, j'allais dire, des comptes. Donc, il faut voter aussi d'abord le compte de gestion avant qu'on passe au compte administratif.
Bon, on passe, on va voter tout de suite. Contre, abstention, merci. Et le compte administratif qui arrive.
Donc, le compte administratif du POP. Alors, la différenciation avec les comptes de la commune, c'est que le port de Carnon est ce qu'on appelle un SPIC, c'est-à-dire service public à caractère industriel et commercial. C'est-à-dire que ça se gère comme une entreprise. Les recettes et dépenses d'exploitation et d'investissement de la régie du port font l'objet d'un budget annexe à celui de la commune. Le budget portuaire est soumis à l'impôt sur les sociétés au même titre qu'une entreprise, contrairement à la commune, et à une taxe de foncier bâti. Le compte administratif dresse un bilan de la même façon qu'on l'a fait pour la commune, un bilan des dépenses et des recettes effectuées sur la régie du port de Carnon sur l'exercice 2018. Et il permet d'apprécier de la même façon la réalisation et la gestion du budget qui a été voté auparavant. Alors, pour le port, la synthèse aussi des éléments constituant des finances. Donc, à la clôture de l'exercice 2018, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global de 1 383 577 000 euros. Pour le port, on parle en hors-taxe, comme une entreprise. Donc, les rétrospectives des résultats cumulés de 2016 à 2018, ce qui est plus parlant, c'est de voir les évolutions. Donc, pour 2018, de la même façon que la commune, on a un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. Au niveau des dépenses de fonctionnement pour 2018, ça s'élève à 2 149 924 euros. C'est une baisse, donc les dépenses de fonctionnement du corps ont baissé en 2018 de 4,48%. Les recettes de fonctionnement du port en 2018 s'élèvent à 3 040 754 000 euros, sont en augmentation de 1,45%. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 396 582 euros, soit une diminution de 14,61%. Et les recettes d'investissement pour le port en 2018 sont de 836 666 euros, soit une augmentation de 37,40%. Donc je pense que le port aura moins de difficultés à contenir l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2%. Au niveau des recettes, alors qu'est-ce qui constitue les recettes du port? Eh bien ce sont essentiellement liées aux contrats, bien sûr, contrats annuels et aux escales de longue durée. Donc ça représente 2 222 000 euros. Les subventions d'exploitation, 22 860 euros, ça c'est essentiellement lié à la mise en place d'installation des cages à larves dans le bassin du port. Et les autres produits de gestion courante qui s'élèvent à 106 546 000 euros. Les recettes de ce chapitre concernent les encaissements des droits de terrasse et d'arrondissement de terre-plein présents sur l'entreprise portuaire. Donc la grande partie de ces recettes concerne le parking de l'hôtel Coste, qui représente 60 000 euros hors taxes annuelles. On a aussi, pour les recettes des produits exceptionnels, plus de 70 000 euros, c'est tout ce qui est la publicité extérieure, l'impôt sur les sociétés. Donc, on constate pour le port une évolution des recettes de 14,61% entre 2016 et 2018. Au niveau des dépenses de fonctionnement du POF, donc pour 2018, elles sont de 2 074 418, donc essentiellement les charges à caractère général pour 739 000 euros et bien sûr les charges de personnel comme toute entreprise, 652 000 euros. Il y a aussi les dotations aux provisions et dépréciations à hauteur de 218 000 euros. Alors, quelles sont les charges à caractère général pour le port? Ce sont les dépenses liées au fonctionnement de la structure et du service, eau, électricité, carburant, entretien général et des engins de levage. Les contrats de maintenance, les études et frais d'honoraires suite au travail qui avait été fait sur les modifications possibles de transfert du port en DSP. Les efforts de gestion continuent sur les trois derniers exercices et ont permis d'infléchir ces progressions, c'est ce qu'on disait en présentation, de 0,58% sur les deux années. Au niveau des charges de personnel, donc qui s'élèvent à 652 000 euros pour le port, c'est, je vous le disais tout à l'heure, le statut du port est un SPIC et de ce fait les embauches sont de droit privé. Donc, sous convention collective des ports de plaisance impactant les dépenses, forcément, de ce chapitre. Au niveau des charges courantes, on a fait une provision pour créances douteuses de l'ordre de 14 000 euros et des charges financières qui sont de l'ordre de 19 000 euros, ce qui correspond aux intérêts d'emprunt, ce qui est bas aussi pour le port. Les dotations aux provisions et dépréciations s'élèvent à 218 000 euros. Alors là, c'est tout simplement parce qu'il a été fait une provision de 200 000 euros, comme chaque année depuis maintenant quelques temps, pour le dragage, en vue du dragage. Donc on constate une diminution des dépenses de 4,48% entre 2016 et 2018 pour le port. Oui, belle maîtrise des finances. Alors après le fonctionnement, de la même façon nous avons l'investissement. Donc les recettes d'investissement pour le port s'élèvent à 836 866 euros. Ce sont en partie on va dire, des subventions d'investissement et sur des opérations d'ordre de transfert, bien sûr, puisque c'est la section de fonctionnement qui vient alimenter les investissements. Au niveau des dépenses, il y a eu des opérations d'équipement en cours, 47 000 euros. Donc ça, je vais vous donner le détail, puisque ce sont les fins des travaux d'aménagement du parc à dériveur situé à Fernand-Ouest et la réhabilitation de la capitainerie. Pour l'instant, on est seulement sur les concours d'architectes et les AMO, enfin les études. C'est pour ça que l'encours d'investissement est bas encore sur 2018. La dette du port s'élève à 216 193 euros, ce qui est relativement bas. C'est différent.
C'est bien mieux que Palavas.
C'est bien mieux que Palavas, sans le dire. Donc voilà pour ce qui est du port. Donc le port, des investissements à venir, notamment la capitainerie, le parc à port à sec à venir, et les 200 000 euros qui sont provisionnés pour le dragage, et malgré ce, il y a une excellente aussi tenue des finances au niveau du port. Donc là, nous allons pouvoir, à partir des questions, après passer au vote.
Des questions sur l'exposé de votre avis?
Oui. C'est moi. Là, je vous parle en tant qu'entrepreneur. Je ne suis pas que auteur, compositeur, monsieur le professeur. Alors, je reviens juste à cette question de la démolition de la capitainerie. Donc, c'était juste une demande des usagers du port et de certains riverains qui demandent est-ce qu'on peut leur fournir publiquement, je ne sais pas sur quelle forme, une réunion publique. peut-être les attendus qui ont prouvé qu'il était moins cher de démolir pour reconstruire.
Les documents de ce bouquet, bien entendu, sont consultables. Il y a eu des assemblées avec les arrondissements du port. Ça me permet de vous dire que, comme la Tour de Montguillot, le port est un budget dépendant. C'est-à-dire que tout ce qui s'y passe, c'est payé par le budget du port, par les 830 arrondissateurs du plan d'eau et les 230 du port sec. Quand la commune fait un investissement qui bénéficie au port, c'est les endroits que tangente l'espace public ou les quais également sont pour partie au bénéfice, aménagés au bénéfice de la commune et pas que du port. Alors effectivement, oui, moi-même j'en étais pas du tout convaincu avant que les études ne commencent, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la démolition était financièrement plus économe en ressources que l'amélioration de l'existant. Ça, on vous donnera les documents, vous pouvez consulter les documents, vous pouvez les consulter. Deuxièmement, dans le projet Montguillot Carnot 2030, la configuration du projet qui a été retenu et qui a fait l'unanimité, je le rappelle, au sein du jury, un jury qui avait été relancé puisque la première monture ne donnait pas une solution et un visuel et des fonctionnalités satisfaisantes. Nous n'avons pas perdu un an, mais plutôt que de faire quelque chose d'inabouti, nous avons préféré attendre un projet qui justement prend en compte l'aménagement public et les futurs cheminements qui iront du quai Meynier vers le quai Tabarly, le quai des pêcheurs, et vers la place Cassin. C'est-à-dire qu'on y retrouve là un retraitement de l'espace public. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans la salle sont la plupart des canonnés, même tous pratiquement, je pense, et on s'aperçoit que quand on veut aller à la place Cassin, quand il y a un feu d'artifice, quand il y a un événement qui se tient, c'est le parcours du combattant pour passer en toute sécurité du quai Meynier via la capitainerie vers le quai Tabarly. Donc vous conviendrez que relancer un concours qui financièrement revient moins cher dans une reconstruction payée par les arrondissateurs, je mentirais si je vous disais qu'il n'y a pas une aide de la commune de 150 000 euros incluse dans le cofinancement pour justement retraiter et sécuriser l'espace public. Voilà.
Oui, de toute façon, parmi les pétitionnaires, il y a beaucoup d'usagers du port. Il y a aussi beaucoup de cardonnés qui sont d'usagers du port.
9%. À cardonnés et de Belle-Bourrière. Je vous rappelle, mais Belle-Bourrière, quand un bateau, c'est interdit. À ce jour, c'est pas interdit. En gros, nous avons à peu près, oui, 20% de contribuables cardonnés et belgoriens qui sont des arrondissateurs du port. Le sujet a été inventé et traité comme il se doit, toute démocratie et toute transparence. Pas de souci.
Ensuite, j'ai une autre question. Il semblerait qu'il y ait eu des propositions qui ont été faites à du personnel du port qui a un statut de la fonction territoriale. On leur a proposé de passer un statut de droit privé avec une augmentation de leur salaire. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si quel est l'intérêt, si c'est vrai.
Alors, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, les anciens collaborateurs du port étaient tous des fonctionnaires territoriaux. Et le statut de port de régie autonome fait qu'aujourd'hui, ce SPIC est sous le régime de la convention collective. Ce qui veut dire que toutes les fois qu'un agent qui était initialement fonctionnaire territorial est remplacé par un agent dont le statut est un statut de droit privé.
Par les anciens.
Compte tenu qu'au sein d'une même collectivité, pour exécuter les mêmes tâches, une disparité de traitement s'est fait jour entre ce qui relevait de la fonction territoriale avec un régime spécifique de l'agent qui fonctionnait en territorial et qui n'est pas le même que celui de quelqu'un qui est de droit privé. Nous avons essayé d'harmoniser, et cela n'est pas possible aujourd'hui, cela n'est pas possible à l'état actuel des choses, si un jour un mandat de gestion est fait, comme ça avait été envisagé pour la SPL, si un mandat de gestion était fait, tous les agents seraient sous le régime unique de la convention collective. Bien entendu, ceux qui sont fonctionnaires vivent avec une certaine amertume. Le fait que certains qui sont arrivés après eux ont des rémunérations supérieures, ou en tout cas qui égalent pratiquement celles qu'ils ont, c'est quand même l'ancienneté qui compte. D'un côté, le statut de la fonction publique me semble, ce n'est pas bon de le dire, plus protecteur que le statut de droit privé. Le statut de droit privé, si vous faites l'affaire, vous restez. Si vous ne faites pas l'affaire, le patron peut vous remercier. Le fonctionnaire de la fonction publique, lui, tout autant qu'il exécute correctement ses tâches, il est garanti par un statut beaucoup plus protecteur. Voilà. En peu de mots, comment vivent les 17 personnes qui travaillent à la capitainerie. Une harmonisation est souhaitable pour arriver à, disons, mettre en place un système d'équité qui ne relève pas de la volonté du maire ni du conseil municipal, mais du statut des agents qui y sont.
Et est-ce que ça veut dire...
Non, mais alors, on a bien entendu, tous les agents se sont vus proposer de passer dans la convention collective. Et pour le moment, ils freinent. Voilà. Ils ont le choix. S'ils veulent, il n'y a aucune contrainte. L'employeur n'oblige aucun agent à franchir le Rubicon. Il le fait s'il a envie, en passant dans le statut de droit privé. Voilà.
La question,
mais si son origine est de la fonction publique, il peut rester agent de la fonction publique. Ce qui lui permet de mobilité, éventuellement, puisque l'agent de la fonction publique est mis à disposition du port. Il peut revenir travailler pour la commune, si ce n'est que la plupart des agents ont des spécificités. Un agent qui manie un engin de levage, un CACES, une qualification professionnelle, que généralement, un agent qui travaille aux espaces verts, qui travaille sur une antenne, n'a pas. Spécificité de métier, c'est pour ça que ce sont des métiers à profil. Voilà.
La question qui se pose derrière, c'est ceux qui voudront rester fonctionnaires, et si on part en concession, est-ce qu'ils pourront garder leur boulot ou est-ce qu'ils seront obligés de venir travailler ailleurs dans la commune?
Ils resteront fonctionnaires et bien dispositifs. Il n'y a pas de souci. Le travailleur est extrêmement protégé par la loi. Extrêmement. Voilà. Bien, je vous propose, mesdames et messieurs, de passer. Ah, ben, il faut que je m'en aille. Écoutez.
Donc, monsieur le maire sort du conseil pour les mêmes raisons que le compte administratif de la commune. Donc, pour le vote, nous passons au vote du compte administratif. De Cardon, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc le point a été voté. Le point numéro 6 de la matinée, c'est l'affectation définitive du résultat 2018 pour la régie de Carmont. Donc, pour voter cette affectation, qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Merci, Caroline. Nous passons au point numéro 7. Il s'agit de délégation de services publics d'enlèvement, de mise en fourrière et garde des véhicules automobiles. En fait, il s'agit de la prolongation de contrat. Le contrat précédent a été conclu avec la société Languedoc, Poilon et compagnie. Il a été conclu pour une durée de 5 ans. Et aujourd'hui, comme il expire le 12 février 2020. Nous proposons une prolongation de 5 mois, ce qui permettra à la nouvelle gouvernance de renouveler le contrat en toute sérénité et ne pas le faire dans une forme de précipitation ou de turbulence administrative. Voilà. Donc, le contrat n'a rien de particulier si ce n'est la continuité de ce que dit le contrat initial. On passe le vote. Contre, abstention. Je vous remercie.
Le point numéro 8, c'est une participation de la commune au financement des travaux et études sur le Petit Travers. Donc, monsieur le maire, ça tombe bien, vous en a parlé tout à l'heure. Pour le rideau du Petit Travers, il a déjà été fait des travaux et il reste à résoudre des points de d'orniérage, de poussière sur les pistes de circulation, difficiles en haute saison. Et donc, pour ce plan de financement, il est proposé que donc c'est l'agglomération du Pays de l'Or qui sollicite auprès de la région un financement à hauteur de 15%, 15% demandé pour le département et 30% pour le conservatoire du littoral, et propose que les 40% restants soient partagés à la charge de la commune et de l'agglomération. L'agglomération du Pays de l'Or propose que chacune des collectivités prenne à sa charge 20% du montant total du projet. Donc au niveau de l'étude de faisabilité, ça représente en tout 15 600 euros. Et au niveau du plan de financement prévisionnel pour l'opération, nous sommes à 165 000 euros. 30, voilà. Donc ce qui représente pour la commune de Mondiaux-Carnon, 33 000 euros.
Je profite pour donner l'information. Les travaux ont été terminés ce soir et le site sera réouvert après-demain ou plus tard, peut-être demain. Si vous
voulez. Il faut espérer que ce soit pérenne.
Mais c'est la contradiction entre la renaturation d'un site et les qualités d'un milieu urbain qu'on n'a pas voulu. Le choix a été fait de ne pas sanctuariser, de respecter la perméabilité des sols. Et aujourd'hui, ce nouveau traitement prend en compte justement la guérison des ornirages et la disparition, je le souhaite, de la poussière. Je vous remercie.
C'est juste une question parce que, bon, là, ça coûte un peu cher ce traitement anti-poussière. Donc, c'est un peu expérimental aussi, parce qu'on ne sait pas trop si ça a été fait. Et en commission à l'agglomération, j'ai posé la question aussi de la vitesse, parce que le problème de la poussière, c'est aussi la vitesse. Et ils m'ont dit, mais si vous mettez des ralentisseurs ou un autre système pour ralentir les véhicules, c'est à la commune de le faire, c'est pas à l'agglomération. Je ne sais pas pourquoi, il faut savoir où en est ce débat.
C'est nous, c'est la commune qui gère la vitesse. Oui.
Donc, vous pouvez envisager de mettre des ralentisseurs.
Il y en a déjà.
On n'en a pas assez. Ah, oui.
On le dit chaque fois qu'il y a un passage piéton. Oui. Non, mais on est tous au contraire. On veut rester naturel. Comme on veut rester naturel, on y va pas y aller. Article 1. Et juste pour rigoler, à fond les ballons. Voilà. C'est ce que je vous disais. Hein? On est d'accord là-dessus.
D'accord.
Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Alors, le point numéro 9, il s'agit d'une annulation d'un titre de recette concernant la demande de remboursement des frais d'eau et d'électricité au profit de l'association de la Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC. Pour la MJC, il y a une mise à disposition des locaux qui est consentie à titre gratuit. Par contre, on demande à l'association de payer à hauteur 50% les fluides, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, suite aux problèmes que rencontre la MJC par rapport à une baisse d'activité significative. On nous a demandé de faire un geste sur ce titre qui représente 13 337,15 €. Donc on vous demande aujourd'hui d'accepter de dispenser le paiement de ces 13 000 euros par la MJC.
Je donne une petite explication. l'arrivée dans le secteur concurrentiel de privé a suscité à peu près la perte de 15% d'adhérents. On est passé de 2600 adhérents à 2300, 2200. Et nous avons demandé à la MJC un travail de recentrage de ces activités pour ne pas rester dans le Japon concurrentiel, comme une activité physique qui est la musculation, par exemple. C'est un peu prévisible, en fait, le choc a été, j'allais dire, plus important que prévu. Et comme la MJC est une association qui pratique l'intégration sociale, et pas que des jeunes, même si ça s'appelle des jeunes, et que la culture, pour nous, ça n'est pas le même mot, nous avons exceptionnellement proposé de dispenser une contribution que nous avions mise en place ces dernières années, pour justement que les utilisateurs fassent attention à ce qui était mis au départ entièrement gratuitement à disposition, compte tenu du nombre d'adhérents, il était nécessaire à titre. Pour les économies, à titre d'exemple aussi, de faire participer tout le monde. Donc, nous vous proposons exceptionnellement de les dispenser de cette contribution qui sera, je l'espère, exigible l'année prochaine, en espérant qu'ils auront retrouvé leur santé financière. Alors, ces mesures d'accompagnement, ça n'est pas la mauvaise gestion. On passe au vote, si vous voulez bien. Qui contre, ça se tient. Merci pour eux. Point numéro 10, Madame Fabien.
Le point numéro 10, il s'agit de la fixation des montants pour 2020 de la taxe locale pour la publicité extérieure, ce qu'on appelle la TLPE. Alors c'est tout simplement le dispositif des publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes. On parle bien ici d'affichage commercial seulement. Donc vous avez le tableau avec la tarification de 2019-2020 selon les mètres carrés exposés. Voilà. Il y a une augmentation minime et fixée par la loi.
On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point de maison. C'est pas le one man show, c'est le one woman show. On a travaillé toujours.
Toujours rien de drôle pour ça à vous raconter. Cette fois-ci, c'est une mise à disposition à titre onéreux du local situé place Capitaine Vincent à Mogio, ancienne crèche des Pibous à la maison d'assistante maternelle, MAM Les Lucioles. Donc là, c'est tout simplement une demande qui a été formulée par ces assistantes maternelles Les Lucioles, puisqu'elles doivent quitter le logement privé qu'elles occupent actuellement, puisque ce bien va être vendu par le propriétaire. Donc on vous demande d'accepter de bien vouloir réaffecter le local et le mettre à disposition, donc le place du Capitaine Vincent, mettre à disposition de cette association.
Il s'agit en fait d'une crèche de petits loups. Et loin de moi l'idée de dire qu'il suffit de demander pour avoir, mais je rappelle que les associations d'assistants maternels autres que celles qui sont communautaires participent également à la garde des enfants, à leur épanouissement, et sont autant de garanties pour permettre souvent à la maman ou au papa de continuer son activité professionnelle. À ce titre, et parce que nous avons dû le faire provisoirement, on verra plus tard si ça peut se pérenniser, nous avons pu mettre et aménager des locaux qui sont à disposition à la maison de l'emploi en leur demandant la même contribution financière que celle qu'elles acquittaient quand elles étaient dans le domaine privé. Ainsi, nous mettons en place, je voudrais que ça va vous plaire, une politique d'accueil familial pour justement permettre à ces dames justement de garder les enfants dans un monde qui est différent de celui de la collectivité, mais qui n'en est pas moins complémentaire. Voilà. Et donc le loyer, bien, ce sera 12 000 euros de recettes. Ça fait partie de l'optimisation des recettes, c'est-à-dire c'est un plan de gestion des locaux communaux qui, à l'état fléché pour les bonnes destinations, peuvent parfois et rendre service et rapporter une petite contribution. Voilà. Donc j'espère que vous en serez d'accord. On met cela en vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le numéro 12. Mais M. Tricor est absent, il est banquier ce soir, puisque c'est son métier. Donc il s'agit d'une demande de subvention pour la vidéoprotection et la vidéosurveillance dans le cadre du programme du Fonds ministériel interministériel de prévention de la délinquance, ce qu'on appelle le FIPD. Voilà, en fait, vous avez tous lu la délibération, mais pour les personnes qui écoutent, il s'agit de participer, de solliciter une subvention pour participer à l'extension du dispositif de vidéoprotection urbaine avec, à Cabron, la création d'un centre de protection urbaine dans les locaux de la police municipale avec reprise des images de Mogio en continuant les installations existantes. Et puis, il s'agit d'ajouter 21 gérés par mal. En effet, je commente, comme je m'y étais engagé, je vous propose de renforcer la prévention et la sécurité dite passive, même si ce sont des images avec des gens qui sont filmés. La sécurité passive, eh bien, c'est arriver à surveiller l'espace public pour dissuader les auteurs potentiels de délits d'agir. Et donc, nous allons, au mois de juillet, mettre en place, au mois de juillet, c'est pas loin, je vous rappelle qu'on est le 24 juillet, dans une semaine, nous allons mettre en place donc ce centre de protection urbaine qui, je l'espère, sera dissuasif et que nous, dont nous poursuivrons par la suite l'application à Mogio. Donc, c'est une démarche innovante qui se pratique dans notre ville, qui demande des moyens financiers relativement importants et des moyens humains importants. J'espère que cela sera suivi des faits. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vous demande d'approuver cette demande de subvention. Qui est contre, M. Bourguet, vous voulez faire quelque chose ?
Juste une question, oui.
Oui, je vous en prie.
C'était pour savoir si dans ce programme, on peut aussi mettre un système de vidéoprotection pour les garrigues, pour surveiller les entrées et sorties du quartier.
Alors, nous sommes en train, comme je l'ai dit, on commence quelque chose qui est nouveau, qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant. Nous monterons ensuite en puissance et nous verrons comment les lieux que sont les garrigues ou bourguières, ce qu'on appelle parfois les écarts, qui ne sont pas, en tout cas c'est là que se pratiquent certains écarts, voilà, et à Mogio, nous monterons en puissance. Mais cela demande beaucoup de moyens. Carnot, volontairement, a été choisi par rapport à certaines exactions, par rapport à la montée en puissance pendant la saison estivale d'une population qui parfois se permet des choses et qui ne sont pas permises, et en fait, justement, de voir le côté préventif et dissuasif, nous le mettons à l'expérimentation ici, mais avec la ferme volonté de le développer au Garrigue et à Mogio. Donc je vous propose de voter. Monsieur Frappoli.
Simplement, vous nous dites que ce sera opérationnel au 1er juillet.
Oui.
Non, parce que si vous demandez une subvention, on peut penser que vous n'avez pas encore le matériel.
Et heureusement qu'on n'attend pas chaque fois la subvention.
Ah, ouais.
Tout à l'heure, si vous avez bien écouté, et je suis sûr que vous avez bien écouté, Madame Fabien vous a dit que 82% des recettes de la commune permettaient d'équiper la commune. Donc finalement, c'est 1% de subvention qu'on attend. Tant mieux s'il en arrive un petit peu plus.
Tant mieux.
Mais c'est bien que vous soyez vigilants.
On essaye.
On passe au vote.
Une petite question à la marge, quand on parle de sécurité. Il semblerait que les policiers municipaux prévus début juillet ne seront pas tous là début juillet. Vous voulez savoir.
Le service de M. Bourguet sera assuré comme je m'y étais engagé. Et les policiers qui ne sont pas arrivés seront suppléés par les policiers qui sont déjà arrivés depuis plusieurs années et qui sont volontaires pour faire les nuits comme je m'y étais engagé.
Ouais.
Voilà. On passe. Madame Corco.
On a remis la lumière la nuit.
Attendez. Vous devez bien dormir alors. Non, la lumière, l'expérimentation se continue jusqu'au mois d'octobre. La lumière est interrompue à partir des heures qui ont été indiquées pour protéger l'écosystème.
Et j'espère que la mise en place de la vidéosurveillance, la vidéoprotection et les H24 des policiers municipaux seront autant d'arguments qui nous permettront, je l'espère, de poursuivre cette expérimentation qu'on ne mettra pas en place contre vents et marées, mais en fonction justement du retour d'expérience que nous aurons. Au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sinon, je ne sortira pas. Point numéro 13, droit à la formation. Alors, il s'agit en fait de rappeler que les élus locaux ont des droits, ils n'ont pas que des devoirs, c'est une bonne chose, et parmi ces droits, il y a ce qu'on appelle le droit à la formation. C'est-à-dire que le centre de formation des élus locaux propose de temps à autre des formations et que statutairement, un budget est prévu par la commune, alors vous avez les ratios, ils peuvent être supérieurs de 20% à l'ensemble des indemnités, ainsi de suite. Je le rappelle. Donc, la volonté de la commune de ne pas simplement consacrer des budgets à la professionnalisation des métiers des fonctionnaires territoriaux que nous avons déjà, qui travaillent pour nous, mais également de permettre aux élus que vous êtes et que nous sommes des possibilités de formation, des formations qui permettent d'être meilleurs dans les approches de la conduite des politiques publiques que nous menons. Que l'on soit dans la majorité de l'opposition, parce que je crois que c'est l'engagement que nous avons tous pris. Donc, il y a parmi ces dispositions autoriser le bénéfice du congé de formation dans la limite de 18 jours par élu par mandat. Avec une perte de vous avez tout le veille. Donc les crédits correspondants sont inscrits au budget. Je vous demande d'approuver cette possibilité, ce qui ne me ferait pas poser de grandes difficultés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 14 que devait présenter M. Tricoire, c'est moi qui le présente, c'est-à-dire que nous avons le tableau des effectifs qui est basé sur les catégories des cadres d'emploi. Et là, donc, il y a la transformation d'un poste au pôle de la jeunesse et des solidarités d'un agent qui a réussi des concours et dont nous voulons créer un emploi d'adjoint d'animation à temps complet pour exercer les fonctions de médiateur. Voilà. Donc, ça n'est pas un recrutement, c'est une évolution de carrière. Les crédits sont inscrits, bien entendu. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Recrutement d'agents. Alors, le point numéro 15. Alors, il s'agit de recruter un agent à la régie municipale. Madame Moulin sera fort, répondra à vos questions si vous en avez. Aujourd'hui, nous avons deux placiers bien connus. C'est-à-dire, ils sont là toutes les fois qu'il y a des marchés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le cumul des heures supplémentaires auxquelles ils sont astreints, d'une part, ne nous permet pas de respecter le code du travail, et pour eux, une surcharge de travail, même s'ils sont dévoués volontaires, n'est pas une solution pérenne. Donc ce que nous proposons, avec une équivalence de coûts, c'est de créer carrément l'emploi, de sorte que même si la somme est à francs à euro constant, nous pouvons disposer d'un service mieux assuré par des agents mieux reposés, puisque un troisième viendra compléter le travail que faisait les deux. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. D'accord?
C'est lumineux.
C'est lumineux. Celui-là, t'en débattant, dans le grand vous voyez, la lumière, elle est pas loin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 16 est relatif, alors, comme nous sommes sous. Non, il est relatif à une prime à laquelle peuvent prétendre certains agents. Nous avons, dans les différents échanges que nous avons avec les syndicats, croisé avec nos lectures de l'actualisation des statuts et des catégories de personnel, souvent, on voit ce qui brille, c'est-à-dire ceux qui sont dans les échelles de cadres, et parfois on a tendance à oublier ceux qui sont dans les catégories C, ce qu'on appelle les personnels qui sont parfois des agents d'exécution. Et je pense notamment aux personnes qui sont chargées de l'entretien des différents sites que sont la salle MSSR dans laquelle nous sommes, la salle Rosa Parks à côté, les locaux de l'office de tourisme. Eh bien, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est que quand un agent doit utiliser son véhicule personnel et qu'il doit se rendre dans une même journée sur trois sites ou plus, on lui octroie une indemnité forfaitaire fixe de 210 euros par an pour justement compenser les frais induits par un déplacement dû au fait que sa mobilité ne peut pas, on ne peut pas affecter un véhicule par agent qui va sur un site. C'est carrément impossible. Il vaut mieux que nous donnions une indemnité tel que les textes d'imprimoire. Donc, autrement dit, ce que faisaient certains agents sans compensation financière, aujourd'hui, ils n'auront pas le pactole, ils auront quand même 210 euros pour, compenser les frais qu'ils ont pour se rendre sur différents sites qui, des fois, ne sont pas. Je rappelle que la commune, même si elle est grande, on a des sites qui ne sont pas quand même à 20 km les uns des autres. Enfin, il faut toutes choses être égales par ailleurs. Voilà. À partir de trois sites, oui, oui. Oui, sur votre document, il y a marqué sur plus de trois sites. Je précise que c'est sur trois, à partir de trois sites. Trois sites et plus. Hein? Voilà. On passe au vote, si vous êtes d'accord. Contre, abstention. Merci beaucoup. Le point numéro 17. Alors, le point numéro 17, je vous en avais déjà donné une information lors du précédent conseil. Il s'agit aujourd'hui d'une délibération du conseil municipal qui va rendre exécutoire une décision du conseil d'administration du CCAS par rapport à l'offre de souhaits qui est faite pour tout ce qui est accueil et parcours résidentiel pour les personnes âgées à la maison de retraite, les Aigrettes. Donc, nous avons, depuis des années, nourri un projet, il n'est pas pédagogique, c'est un projet de santé, c'est un projet médico-social qui tend à moderniser l'équipement qu'est la maison de retraite, le foyer des Aigrettes, qui est géré par l'association, qui comptait 86 lits, un projet qui a été travaillé avec le département et l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui sont les deux autorités de tutelle de cet établissement et qui valide la reprise d'un mandat de gestion qui est opérant déjà depuis deux ans, la Croix-Rouge, qui est en la matière, le leader en matière de gestion, avec la création de places d'hébergement temporaire, avec la création d'une unité de vie Alzheimer, avec la création d'un pôle d'activité de soins adaptés, ce qu'on appelle un PASA, avec justement une prise en charge de ce qu'on appelle un parcours résidentiel, pour arriver à proposer aux différentes, alors ce ne sont pas des pathologies, mais j'allais dire les restrictions physiques que connaissent nos aînés, arriver à proposer un parcours résidentiel pour justement mieux vieillir. Donc nous avons pour cela contractualisé une vente au niveau de la Croix-Rouge. Ce qui est proposé, c'est une vente de la résidence du foyer des Aigrettes avec le maintien, bien entendu, des tarifs qui sont fixés par le département, c'est-à-dire à 65 euros par jour, et avec, bien entendu, la création, dans le même temps, de 57 logements de l'EPA, c'est-à-dire de l'établissement pour accueillir des personnes qui ne sont pas dépendantes, et qui porteront, si vous voulez, la capacité qui était de 86 à 8,5
13, 130, 125, puisque on en perd 6, 9, qui vont encore en terrain. Ce projet est un projet concerté avec le territoire de la métropole et nous avons bien entendu des garanties pour que l'affectation de ce bien soit par le biais de ce qu'on appelle une clause résolutoire bien dédiée à la vente, à la construction d'un établissement de santé qui va compléter celui qui est existant. J'ajoute que deux logements individuels sont également, seront également cédés contre rémunération à la Croix-Rouge et que les personnes qui ont droit à l'aide sociale seront maintenues, nous les avons reçues, et que la clause résolutoire, c'est-à-dire la condition qui garantit la vente et son affectation, est de 50 ans. Voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui de valider cette proposition qui avait été faite, dont l'information avait été faite récemment, et dont le conseil d'administration des EGREL, le conseil d'administration du CCAS, qui est l'autorité de tutelle de l'association, avait le mois dernier délibéré. Monsieur Longuet ?
Oui. Bon, déjà, moi, personnellement, je suis contre qu'on le vende. Même si je suis pour qu'on fasse une résidence d'autonomie, je pense que c'est nécessaire à mon bureau. Je pense qu'on aurait pu faire un montage différent en restant propriétaire d'un foncier. Pour c'est sûr.
Si vous êtes entrepreneur, comme vous l'avez dit, voilà. Faites une proposition, monsieur.
Oui. Oui, mais là, on voit que des propositions, c'est trop tard.
Non, mais depuis que nous en parlons, votre camarade.
Bien sûr, vous allez très bien.
Et voici, Madame Grèce travaille et est élue. Vous savez très bien que le modèle économique plaide pour une mutualisation des moyens comme le fait dans une commune, avec des approches juridiques, financières et de gestion, en garantissant la qualité des soins, avec un spécialiste qui est la Croix-Rouge, auquel nous avons confié depuis plus de 2 ans, un mandat de gestion. On ne fait pas ça avec les mains, et on le fait avec l'option des autorités de tutelle, que sont le département et la MS. Ça n'est pas une idée, une folie qui nous est arrivée comme ça, monsieur.
Oui, moi, je ne parle pas du fait que ce soit géré par la Croix-Rouge, je parle du fait qu'on vende le foncier, qu'on vende le parc. Voilà ce dont je parle. Ensuite, je voudrais savoir, bon, indépendamment de mon vote aujourd'hui, je voudrais savoir le reste du parc, est-ce que, parce qu'on ne dit pas, on ne sanctuarise pas le reste du parc, est-ce que le reste du parc, indépendamment de la maison, d'autonomie, de la résidence d'autonomie, le reste du parc est quand même en zone urbaine, donc il peut être construit par un promoteur privé si on n'est plus propriétaire.
Absolument pas, puisqu'il y a le code résolutoire qui dit que la destination du bien est faite pour une affectation à un projet médico-social et pas autre chose.
L'ensemble, sur les 11 000 mètres carrés.
Non, c'est 7 000 et quelques. Il y a déjà un établissement existant, M. Bourguin. Cet établissement existant garde sa vocation. Il y a ensuite une variable qui est sur un terrain dont le montant est de 730 000 euros, la construction d'un EHPA, c'est-à-dire le projet médical du parcours résidentiel pour des personnes qui n'ont pas de handicap, qui ne sont pas dépendantes.
Et reste du terrain.
Non. Mais non. Il y a ce qui est bâti, c'est une chose, et ce qui n'est pas bâti, ce sont les 4 838 mètres, presque 5000 mètres carrés, qui eux sont battus pour faire les pas. Et puis, il reste les 2 villas dont l'usage est garanti aux occupants. Et si ces occupants aujourd'hui quittent les lieux, ils seront toujours dédiés au même tarif à des gens éligibles à l'aide sociale.
En tout, il y a aussi un intérêt de terrain. Bon, c'est pas vrai. Donc, il restera un parc de 3 ou 4 000 mètres carrés dont on ne sait pas ce qui deviendra dans le temps. Ensuite, je voudrais savoir le montage financier, parce que vous dites que c'est le CCS, ça appartient au CCS, mais l'argent de la vente, il va revenir à la commune, il va revenir au CCS, il va être...
L'argent de la vente, il va commencer, vous savez que malheureusement, ça n'a pas été financé trop fort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un remboursement d'emprunt.
D'accord.
Et il y a aussi le remboursement des sommes qui ont été avancées par la commune, parce que la commune, depuis... pas mal de temps.
Je voudrais savoir ce qu'on va faire.
Ça passera devant le prochain conseil, si vous
voulez.
Et y a, ça passera au CCS et ça passera également, pour que ce soit exécutoire, au conseil municipal. C'est-à-dire que les affectations de sommes se feront dans toute transparence. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est une question de santé et effectivement, le parcours résidentiel passe par cette disposition que nous travaillons sur le territoire depuis plus de 5 ans. Après, bon, libre à vous de ne pas accéder à la proposition que je fais, mais qui est une proposition sur laquelle, je pense, nous devons trouver les points de convergence au bénéfice des aînés. Voilà, tout ce que j'ai à dire. On passe au vote, si vous voulez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, et notamment ceux qui sont pour. Le point suivant, c'est l'approbation de la convention du projet urbain partenarial des ateliers de la Loubane. Alors c'est M. Cassard qui devait le présenter, je vais le faire en ses lieux et place. En fait, vous avez un plan qui situe le théâtre de cette opération d'aménagement qu'on appelle les ateliers de la Loubane et qui déjà dit dans sa description que c'est au nom de Bouguiot qui est la dernière opération d'aménagement de la tranche de la Loubane. C'est-à-dire que quand on passe, pour ceux qui connaissent un petit peu, quand on passe devant le rond-point Willy Brandt et que l'on va vers le canal, vers Mouillaison, il reste une bande de terrain assez importante avec du bâti et à cet endroit, il est possible de réaliser un lotissement d'activités artisanales, ce qui nous permettra à la fois de conforter l'emploi et de faire rentrer un petit peu d'argent dans une zone qui est dédiée dans notre PMU à l'installation d'entreprises. Donc, nous avons il y a 14 400 mètres carrés, donc un peu plus de l'hectare, et il s'agit aujourd'hui de mettre en place, d'approuver le partenariat de l'opérateur privé qui, par ses contributions, va permettre de participer en tant qu'aménageur. Et donc, les participations qui ont été demandées s'élèvent à 190 600 euros, presque 200 000 euros. Voilà. Donc, cela va permettre de. Alors, les activités, ce sont des locaux d'activité. L'affectation précise, je ne l'ai pas, mais nous avons beaucoup de demandes et cela va permettre, dans un secteur dont l'accessibilité est aisée et dont l'émergence ne va pas contrarier les flux, ça ne concentre pas quoi que ce soit, c'est fait dans une zone qui est dédiée justement à l'aménagement. Voilà. Donc c'est l'entreprise, c'est Cyrus Vegas qui a eu le... C'est ça? Voilà. Donc, que vous dire de plus? Ils vont payer le secteur, ils vont payer la taxe d'aménagement et ainsi de suite. Voilà. Monsieur Acropoli.
Monsieur Levert, il me semble qu'il y a des producteurs, vendeurs de fruits et légumes là dans le coin. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Ils n'ont pas d'existence légale. En termes d'impact sur. Ce ne sont pas des gens qui vont dans le bord de route, ce sont des privés qui sont entendus avec le preneur, moyennant des compensations qui ne me regardent pas. Je veux dire, il n'y a pas un tol, il n'y a pas une perte de quoi que ce soit par rapport à une autorisation qui aurait été délivrée par la commune pour l'occupation du domaine public pour se livrer à une vente des produits de leur.
Dans la mesure où ils se sont arrangés avec le promoteur.
Ben, arrangés, oui, ils ont des dispositions financières qui font qu'ils ont trouvé des accords.
D'accord.
Aujourd'hui, moi, je n'ai pas signé l'acte de DUP ni d'expropriation. C'est une, ce qu'on appelle un accord de grève. On passe au vote, si vous voulez. Contre, abstention. Merci. Le point 19 relève également de l'urbanisme. Alors, ça nous regarde, ça nous regardait, d'une manière originale de présenter le sujet. Ça ne se passe pas sur notre territoire. Pour autant, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les enquêtes publiques, qui sont nécessaires pour donner, pour solliciter l'avis des communes voisines lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle une ICPE. Il y a donc une entreprise de négoce qui s'installe au bas du bosque, sur la commune de Mudaison, et on nous demande si l'exercice de cette installation, qui consiste en une création d'un nouveau bâtiment de stockage sur site de produits matériels, avec un traitement des effluents, un caniveau gris pour dissoudre au centre du nouveau bâtiment, collectera, enverra les effluents vers le réseau existant, son stockage est mis en place de traitement pour l'épandage mobile. C'est-à-dire que, bon, ce qu'on nous dit, c'est que c'est conforme aux prescriptions environnementales, et on nous demande si d'autre côté, ça ne vous dérange pas. Voilà. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de dire que ça ne nous dérange pas, et que si l'activité économique dans la zone du Mar du Mosque est dopée par l'agrandissement, mais c'est un mieux pour l'activité et pour l'emploi. Mmh. On passe au vote. Qui est contre?
D'autant plus qu'ils ont le label écotaxe sur une grosse partie de la production.
Et bien, comme quoi, ça fait plaisir de voir des gens vertueux. Il faut les encourager. On prend le nom de le procès verbal?
Oui, on peut. Allez.
Ben, il n'y a qu'à pas se gêner. Contre l'abstention, je vous remercie. Point numéro 20. Dénomination de bois rue Étienne Lenoir. Je vous parlais tout à l'heure de l'installation, enfin plutôt de la reconfiguration du magasin de vente de BMW, des états Sutel, pour ne pas les nommer, lesquels états Sutel s'installant dans une zone qui n'était pas de Mansland, mais en tout cas qui n'était pas, d'un point de vue cadastre, répertorié avec une adresse. Il vous est proposé aujourd'hui, et vous avez un plan qui vous explique le propos, il vous est proposé aujourd'hui de donner un nom à cette rue dont il a besoin pour son code postal. Il vous est proposé de dire la rue Étienne Lenoir, puisque Étienne Lenoir est une personne qui a déposé un brevet pour un moteur dilaté par la combustion du gaz et de l'éclairage enflammé par l'électricité. En fait, bon, c'est le père du moteur à explosion. Voilà. Alors, on a toujours essayé de trouver des thématiques dans les différentes zones. Là, il était difficile de lui donner un nom d'aviateur, même si ça va le remplir. Et on a pensé que cette proposition qui affectait le nom de l'inventeur, qui était, je veux dire, qui collait bien avec l'activité, puisque là, quand même, il s'agit d'une affaire, à mon avis, qui est à 1 000 d'euros, c'est à plus de 2 chiffres. Voilà, donc c'est une grosse affaire. Voilà, donc je vous propose de la dénommer rue Étienne Lenoir. Voilà.
Oui, je ne voterai pas contre, mais moi je n'aurais pas choisi ce nom-là, parce que je pense qu'il est un peu démodé, même si le moteur explosion a été une grande révolution. On aurait pu choisir le nom de l'inventeur du moteur électrique ou de la pile à hydrogène. Ça aurait été plus d'avant-garde.
Ah, écoutez, chacun peut sortir la sienne. Mais bon, je pense que Étienne Lenoir ne fera du mal à personne. Aujourd'hui, là où il est, non. Puisqu'il est décédé le 4 août 1900, à la barrière de Saint-Hilaire, c'était une manière aussi de faire un petit clin d'œil à une personne qui avait quand même. On peut dire qu'il avait fait avancer l'humanité. Des fois, un peu trop vite, il a fait avancer. Allez, on passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Madame Olette Raffort, passez-y à vous parler de la programmation culturelle 2019-2020.
Alors, dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020, nous présenterons 12 spectacles au théâtre passager, dont l'entrée sera payante pour le public. Alors, vous le savez, nous inscrivons dans une politique d'accès à la culture pour le plus grand nombre, en privilégiant à la fois la diversité du spectacle, évidemment, et les publics qui sont présents. Donc, les tâches que nous vous proposons ici sont identiques à ceux qui ont été votés lors de la saison précédente. On avait le détail dans la délibération. Et nous conservons également l'abonnement pour les mêmes modalités que les années précédentes. Voilà. Je vais donc proposer d'approuver cet article de spectacle payant de la programmation culturelle au théâtre passager pour la programmation qui s'étend d'octobre 2019 à avril 2020.
Bien, on passe au vote. Contre, abstention, merci.
Alors, le point 22, il s'agit ici de la mise en place de la convention de partenariat qui lie la commune à l'association Confluence pour l'international de la guitare pour la tenteur de billetterie pour la vente des places du concert de cette année qui sera le concert de Barbara Carlotti dans le cadre donc de l'édition 2019. Dans un désir de proximité bien évidemment avec le public, la commune se propose d'ouvrir un point de vente dédié pour ce concert avec des tarifs qui sont donc les suivants: 22 euros en plein tarif et 20 euros en tarif réduit. Il voulait donc là aussi proposer d'autoriser M. le maire à signer cette convention avec l'association Confluence.
Merci Patrick, des questions? Non. On passe au vote. Contre, abstention. Merci.
Alors le point 23, ici sur le renouvellement de la convention de partenariat avec l'association Culture et Sport Solidaire 34. Alors vous savez ici, la culture et le sport sont des leviers importants dans l'intervention sociale. Donc nous nous proposons une mise à disposition de places gratuites au théâtre dans le cadre de notre programmation municipale, culturelle bien sûr, ainsi que l'intégration de personnes en situation de rupture sociale par le biais de visites, d'ateliers et d'expos. Donc nous réservons un quota pour chaque manifestation, pour chaque représentation au théâtre d'entre 5 et 10 places pour l'association Culture et Sport Solidaire 34. Voilà, donc je vous propose d'autoriser M. le maire à signer cette convention de partenariat avec cette association.
Merci. Passons au vote, si vous le voulez bien. Contre, abstention. Merci.
Donc le point 24 maintenant, c'est aussi le renouvellement de convention de partenariat sur ce coup-ci avec l'association Marteau Plume. Alors cette association, comme l'an dernier, propose de créer une dynamique commune de déplacement autour du covoiturage pour se rendre au spectacle à passager et développer à l'issue du spectacle des moments d'échange entre les spectateurs. Voilà. Alors au regard de cet engouement et de cette idée-là, l'association se voit donc proposer des tarifs spécifiques pour l'ensemble de ses membres à raison de 10 euros pour les spectacles tout public et 6 euros pour les spectacles familiaux. Comme l'année dernière. Donc, je vous propose d'autoriser M. le maire à signer également la convention avec cette association Marteau Plume.
Les commentaires, pour ce vote, contre, abstention. Merci pour eux.
Alors là, on a terminé avec le renouvellement des conventions. On passe à la réhabilitation de l'îlot Prévert. Dans ce cadre-là, dans la réhabilitation de l'îlot Prévert, là, c'est une cour de l'école, est aménagée en parvis. En rendre compte lors de la romerie, en parvis ouvert qui permet de créer une place piétonne et passante. Le choix a été fait sur cet espace de recevoir l'œuvre d'un artiste local, Jordi. Et cette œuvre sera donc installée au sol, complètement intégrée dans l'enrobé du parvis. Elle s'intitule Ruedo, et elle marque bien sûr la volonté de la ville de valoriser les traditions taurines autour de la commune et du taureau. Voilà, je voulais donc proposer d'autoriser M. le maire à signer une convention de commande d'œuvres artistiques avec cet artiste de Jordi pour un montant de 13 256 euros.
Merci. Votre vote contre, abstention. Je vous remercie. Le dernier point sera relatif à une convention de partenariat avec Groupama dans le cadre des actions en direction de la jeunesse.
la soirée Wake Up et le dispositif Otaku. Madame Fabien parlait tout à l'heure de l'optimisation des ressources et du mécénat. Eh bien, cette action en fait partie, c'est-à-dire que nous avons des opérateurs privés qui soutiennent des idées qu'ils jugent positives, en tout cas en faveur de leurs adhérents ou plus largement de la jeunesse. Il s'agit là d'approuver le principe de la signature d'une convention de partenariat entre le groupe AMA et la commune à hauteur de 650 euros. Pour deux actions, la soirée Wake Up, qui est une soirée dédiée aux jeunes qui se déroule dans les arènes de Bouguio le vendredi 28 juin, c'est-à-dire bientôt de 20h du matin. Il s'agit justement de proposer aux jeunes de faire la fête sans boire de l'alcool, ce qui paraît quelque chose de toujours difficile à gérer aussi. C'est pire à gérer qu'à gérer, pour ceux qui suivent. Et donc, ce dispositif, depuis de nombreuses années, a montré ses vertus, donc nous avons souhaité le reconduire. Et le dispositif Otalco est un dispositif qui est destiné à accompagner le moment festif de la fête sportive qui se déroulera au mois d'août, du 10 au 18 août 2019, et qui allie des actions de prévention et diligentées par le pôle jeunesse et solidarité envers notre jeunesse, travail qui est fait également avec, dans le cadre de l'aide à la parentalité et la gestion du moment festif. L'éducation et la fête n'étant pas forcément incompatibles, quand on s'y met à se tenir, on peut bien s'amuser. Voilà. Donc, je vous propose de voter ce partenariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre participation au conseil municipal et vous donne rendez-vous pour le prochain conseil qui se déroulera le 29 juillet à Bouguio cette fois-ci. Bonne soirée à tous.
Est-ce qu'on pourrait avoir un petit échange sur l'actualité un peu brûlante à Bouguio en ce moment, dans le monde du conseil municipal? Je veux parler de la déviation est de Montpellier.
C'est la raison pour laquelle M. Castor du
Parlement. Je m'en doute bien, je m'en doute plus.
Eh oui.
Parce qu'en fait, là, ils nous mettent à la concertation deux tracés. Pour notre commune, les deux tracés sont exactement le même. Donc, c'est quand même un problème majeur. C'est encore 4 hectares de moins au château ministre, à qui on a déjà pris 7 hectares pour l'autoroute. C'est pas pour défendre un château en particulier, c'est pour notre patrimoine, quand même, les couteaux de la Méjanais. Voilà, donc je voulais savoir un peu quelle était la position de la commune.
La position de la commune, elle répond quand on lui demande. Et on lui demande ce soir, dans une instance qui n'est pas celle du conseil municipal, mais celle de la concertation qui se déroule à Saint-Aunès. La position de la commune, en tout cas du groupe majoritaire aujourd'hui, est bien celle de prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontés les exploitants agricoles dans les tracés qui sont proposés. Et s'il y a une solution qui est moins impactante, qui est réalisable et qui est proposée, semble-t-il, par la Chambre d'agriculture, nous sommes prêts à l'étudier. Nous avions pris des délibérations précédemment par rapport au tracé le moins impactant pour notre territoire. Nous sommes conscients des réalités. Le propriétaire du conseil ministre, je l'ai personnellement rencontré, M. Tissot, pas devant une assemblée du conseil municipal. Nous avons échangé, bien entendu. Et la préservation de l'outil de travail nous est chère, parfois même nous avons des contributions à plus de 600 000 euros, puisque là, c'est un autre sujet. Mais qui ne prête pas à rire, puisque malheureusement, le conseil ministre a déjà payé sa contribution, lourd tribut, avec l'aménagement des voiries. Aujourd'hui, quand même, attendons quand même que l'opérateur, le maître d'ouvrage qui est le département, apporte son arbitrage sur la faisabilité d'une solution que tout le monde appelle de ses voeux, si on arrive à trouver le meilleur consensus. Qui s'appellera. Voilà. Donc nous attendons de savoir si c'est faisable. Et nous aurons, je le rappelle, comme l'ont indiqué les documents qui nous ont été envoyés par le département, une concertation et un vote à effectuer en conseil municipal. Voilà, prochainement.
Oui, parce que pour le moment, le département, il refuse de parler de la troisième solution.
Donc,
Attendez, moi je ne peux
pas. Pour moi, les documents,
moi, je suis, moi je ne suis pas habilité à parler au nom du département. Le document qui a été édité par le département, à mon avis, semblerait, j'ai un point conditionnel, antérieur à la proposition qui a été faite par le chambre d'agriculture.
Ah oui.
Voilà, peut-être. Donc, quand vous arrivez à prendre la journée, je me fais, c'est postérieur à la division du document.
Oui, le
document, ça fait intérêt, monsieur Bourguet.
Le document, c'est un document qui
voilà, bonne soirée à tous. Merci.
Thank you.